Non, s'il y a des gens qui souhaitent effectivement de
on en parlera ensuite. Alors, donc bienvenue donc pour cette deuxième séance de ce groupe de travail qui a pour thématique, voilà, Adrien Ferro, qui a pour thématique aujourd'hui un sujet qui, bon, tous les sujets qu'on va aborder seront importants, mais la finance, bon, il y a coïncidence, le G20 en même temps, mais ils ne parleront pas du même sujet que nous, hélas convaincu. Alors, ce que je vous propose, donc, à propos de la finance, c'est de diviser la séance en trois grandes parties. On va essayer, le plus rapidement possible, pendant une heure et demie, j'ai essayé, d'une part, dans un premier temps, de vous faire un petit exposé d'un papier que certains d'entre vous ont peut-être reçu sur ce que j'appelle la critique de la financiarisation et ensuite les paradigmes qu'il faudrait évoluer. Je pense que ça nous permettra ensuite de nous focaliser sur des points précis dans le cadre des propositions, puisque c'est bien l'objectif que nous avons à faire. Ça sera pas aujourd'hui de finaliser nos propositions. Hein. C'est évident qu'il y aura une maturité qui sera nécessaire. Et déjà, ça sera la première fois qu'on en parlera un petit peu tous ensemble et de partager ou de voir les consensus ou non consensus sur certains points. Ensuite, il faut savoir que Bernard Stiegler va avoir un certain nombre d'interviews là, dans les semaines à venir, en mars avec Frédéric Lordon, dont un certain nombre d'économistes qui ont pas mal réfléchi sur ces problèmes de régulation et de réforme de la finance, pas forcément de la finance contributive, mais je pense que ce sont des points qui sont fondamentaux, ils nous aideront aussi dans nos propres réflexions. Alors, je disais Frédéric Lordon, ensuite il y aura Paul Jorion, qui est quelqu'un qui est effectivement très important, Bertrand Marie, et puis aussi probablement Gadet.
Jean Gadret,
voilà, pardon. Jean Gadret, éventuellement d'autres. Enfin, en tout cas, c'est le programme des semaines à venir d'interviews qui seront donc mis en ligne. Et je rappelle que toute la séance sera mise en ligne et que je ferai parvenir à l'ensemble le papier de présentation que j'ai préparé, qui sera mis en. Qui pourra être consulté par l'ensemble du groupe de travail. Alors, on n'a pas souhaité effectivement inviter systématiquement tout le monde, parce que pour arriver à travailler, j'allais dire dans une séance, je pense qu'il ne faut pas être un nombre excessif, et donc sont venus ceux qui ont le plus contribué, j'allais dire, aux premières élaborations, quelques-uns qui nous ont dit qu'ils avaient des choses à venir. Mais il est bien entendu, je crois qu'il faut bien se comprendre à propos de ce groupe de travail. Il peut se faire beaucoup de choses et il se fera beaucoup de choses dans les interséances ou dans les phases d'élaboration. Et là, à travers la liste de discussions, où chacun peut échanger, peut produire et échanger avec les uns et les autres, je pense et j'espère bien qu'il se passera beaucoup de choses de manière à progresser et à évoluer parce que quand on arrive en séance, j'allais dire, il s'est soit déjà passé beaucoup de choses. Voilà. Donc je pense que tout le monde le comprendra, parce qu'en plus, il y en a beaucoup qui sont à l'étranger et en province. Et c'est vrai que de toute façon, on a bien vu les difficultés de mise en ligne, on ne peut pas non plus être très très nombreux. Il va falloir qu'on améliore nos processus de liaison. Mais il y a un petit problème chez Bernard, qui est en province, dans une province qui est équipée comme elle le peut, ou en tout cas qui n'est pas équipée. Et donc le jour où chez Bernard, on pourra mettre en place un débit normal, je pense que ça facilitera beaucoup les liaisons avec les uns et les autres en vidéo qui auraient été plus adhérables. Donc pour l'instant, elle est en audio aujourd'hui. Voilà, alors, donc je vous ai dit qu'elle serait divisée en trois grandes parties. Donc je vais parler de la première partie. De la deuxième partie, on essaiera au bout d'une heure et demie de faire un état des propositions introduites dans le débat public. J'ai fait un petit travail de soumission que je ne garantis pas qu'il est intrinsèque, mais je pense qu'il nous aidera à voir ce qui se passe aujourd'hui, ou le peu qui s'est passé dans le débat public, et en tout cas le peu qui a été élaboré par quelques-uns. Je vous ferai donc un petit panorama de ce que j'ai pu trouver. Et puis nous arriverons, alors il faudra absolument que au plus tard à 16h, on fera une pause d'un quart d'heure, et qu'au plus tard à 16h, on passe au stade des propositions, qui est le cœur de notre, du sujet de notre séance, où là, je vous ferai quelques propositions que nous discuterons ensuite, et puis on essaiera de garder une demi-heure pour parler des programmes de travaux à venir, de ceux qui ont des textes en préparation, et puis des deux séances ensuite qui sont pour l'instant programmées. Il y aura peut-être une troisième, on verra en fonction du mûrissement des travaux des uns et des autres. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a quelques questions? Sinon, je passe à mon premier point.
Moi, j'ai une petite question méthodologique, parce que en fait, j'ai lu ton document, qui est pour d'aujourd'hui, là.
Oui.
J'ai pas eu le temps de répondre par mail. Dans le livre, tu proposes de prendre le point 1, puis le deuxième, le troisième.
Oui.
Et en fait, moi, j'ai plutôt une remarque d'ensemble sur l'architecture du texte, sur des éléments peut-être de mise en perspective.
Oui.
Je sais pas s'il vaut mieux les faire au début ou à la fin.
Vas-y, donne pas tes suggestions.
Les éléments, ils sont très précis, très techniques, très documentés, donc j'ai pas vraiment de remarques de fond là-dessus sur tous les éléments. Je pense qu'on peut les prendre un par un, il n'y a pas de souci. C'est plus pour moi le lien qui n'est pas extrêmement clair entre la finance en général, on va dire la banque et la finance d'un côté, et de l'autre l'économie et la production.
Vous entendez pas bien. Bon. Je vais rapprocher le micro là, de Tam, et donc ça veut dire que chacun s'approchera du micro.
Apparemment, ouais. C'est mieux comme ça?
Est-ce que ça vous va comme ça? Ils sont reliés ou pas?
Vous avez perdu?
Très bien.
Bon.
Ça va?
Bon.
Oui. Ouais. Donc vraiment, je veux
oui,
pas.
Ok,
alors je vais essayer d'être vraiment courte, mais en gros, pour moi, il y a un premier point qui est de faire le lien avec les paradigmes, la société toxique, en gros, et le rôle de la finance par rapport à ça. Et pour moi, là-dedans, il y a tout un chapitre qui est l'aspect, la banque, on va dire, qui pousse à la consommation toxique. C'est le crédit relais, c'est les produits jetables, etc., etc., toutes ces choses-là. Ensuite, le deuxième point qui serait de dire que par rapport à ça, la finance démultiplie ça de manière monstrueuse, à travers, par exemple, le subprime, etc. Donc simplement, il me semble qu'il y a un premier volant qui est, au-delà des aspects très précis qui sont là, peut-être une mise en perspective qui raccroche ça à la société toxique et à l'économie libidinale. Ensuite, il y a un deuxième aspect pour moi qui est que je pense que l'un des risques que tu avais souligné d'ailleurs dans une réunion précédente ou un mail, c'était qu'on ne veut pas s'attaquer aux 5% alternatifs ou à côté de l'économie principale, on veut s'adresser aux 95% qui sont vraiment le mainstream. Et du coup, moi, il me semble important de travailler d'un côté sur la finance de ces 5%, la finance de cette économie à côté, et de l'autre, sur ce qui me semble être des modèles émergents, donc tout ce qui est l'ADN, travailler sur comment financer des projets un petit peu pilotes ou autres, qui permettraient de changer ces 95%. Donc dit autrement, mon discours, il est moins financier ici que sur le type d'économie de société qu'on voudrait, et de voir comment la finance en général, et la banque en particulier, peuvent contribuer à financer cette nouvelle société. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est moins directement dans les trois chapitres que tu as précisé très techniquement, que dans un espèce de cadrage général, avec en plus un troisième point qui me semble être que si on veut rapprocher le temps de travail, le RMG, revenu minimum garanti, etc., on a un point, une sorte de dorsale qu'on peut reprendre dans tous les cas, qui est de dire, voilà, tout ça c'est une société qui est toxique, la finance est un des leviers qui rentre là-dedans, le travail en est un autre, et donc à chaque fois de repartir de ces grands leviers que sont le type de société qu'on voudrait, et la finance c'est l'un de ceux qui peut permettre de faire émerger ça. Voilà, et donc... ça pose aussi la question des monnaies complémentaires et d'autres types, le rôle de la monnaie dans la société. Donc pour moi, si tu veux, ma réflexion en lisant le texte, c'est, je vois ça comme un gros tiroir financier très précis, assez technique, ce qui est dans ce papier-ci. Et de l'autre, peut-être qu'un positionnement en amont de l'économie de contribution, de la société de contribution, en disant comment la finance peut faire émerger ce nouveau modèle, d'une part, et comment, partant de là, on peut faire le même processus, le même mécanisme, je dirais, pour le temps de travail, la fiscalité, etc.
Et là, je comprends très bien ce que je veux dire. Je m'attendais bien, mes propositions restent très en amont. C'est bien pour ça que d'emblée, j'ai dit qu'elles doivent être mûries et hautes, mais je pense que si on veut avoir une chance de voir émerger un jour et généraliser l'économie de la contribution, ça doit passer par, d'une part, une régulation de la finance qui n'est pas ce qu'elle fait, et deuxièmement, par un certain nombre de réformes qui vont bien au-delà de la régulation. Et tant que ceci ne sera pas fait, sinon on en restera à des petites mesures qui permettront de trouver une banque qui qui sera à même de financer quelques sociétés émergentes, mais on n'aura pas une réforme globale, et c'est bien pour ça que je crois qu'il était important d'insister au démarrage, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas la prétention, enfin, je crois qu'aucun d'entre nous n'a la prétention, d'avoir fait le tour du problème et d'aller jusqu'où tu vas, justement, où je pense que moi-même, je n'ai pas d'expérience, toi tu en as, je pense que Bastien en a plus, de ce qui peut se faire ou de ce qui s'est déjà fait. On aura, sur le travail, on aura une séance prévue, a priori, au mois de juin, travail, revenu, fiscalité, et puis on aura une séance, probablement on en parlera en fin de séance, si vous êtes Bastien et toi préparés, et Franck, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses dans les domaines pour la séance du 30 avril qu'on a prévue. Et entre-temps, je pense que les échanges qui pourront intervenir entre nous devront faire évoluer, que ce soit la finance, que ce soit les problèmes des processus contributifs, etc., l'évaluation. Alors, on est obligé de cerner un peu les problèmes et d'avancer pas à pas. Alors,
la séance, en fait, c'est sur la question qu'on se posait, c'était la finance, comment la réformer, la finance mainstream. Il ne s'agissait évidemment pas d'oublier la microfinance, évidemment, et pas d'oublier les monnaies complémentaires. Mais sauf que c'est, à mon avis, c'est émergent, c'est les 5%, c'est vraiment très intéressant, mais ce n'est pas avec ça qu'en fait, d'une certaine manière, faire fonctionner un modèle alternatif d'économie internationale. Et il s'agit évidemment, pour moi, il me semblait que le cadrage général, c'était la réforme, entre guillemets, disons, des présupposés du mainstream sur qu'est-ce que c'est qu'une finance efficiente, enfin, tout ce qui va être évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on discute avec la finance mainstream, d'une certaine façon, pour voir quels sont les présupposés, d'accord ? Et ensuite, évidemment, on pourra discuter du nous, enfin, des formes, disons, évoluées ou pas évoluées, d'ailleurs, enfin, même régressives, parfois, on peut le dire, de microfinance, hein, puisqu'en fait, je veux dire, la microfinance, c'est loin de faire, dans les pays du Sud, l'unanimité, mais en même temps, c'est très intéressant. Quand on voit, par exemple, les taux, enfin, qu'est-ce que c'est ? De toute façon, ça fonctionne, en fait, sur les mécanismes de base de la finance. Donc, il faut vraiment se poser la question de la finance. Je pense que c'est ça l'objectif du cadrage d'aujourd'hui. Et qu'effectivement, après, on peut se poser, évidemment, pourquoi pas, les monnaies complémentaires. Voilà, tout à fait. Mais sauf qu'à mon avis, l'idée, c'est, comment dire, qu'est-ce qu'on fait de la monnaie et qu'est-ce qu'on fait de la monnaie, quoi. C'est quand même ça la question centrale aujourd'hui, je crois. Hein. Pour, dans la perspective d'une économie de la contribution, que je dois rappeler quand même, c'est une tentative de... allons-y gaiement, de refonder une économie générale. Il ne s'agit pas de faire une économie du particulier, en fait, des dispositifs alternatifs, disons, du tiers secteur ou de l'économie sociale et solidaire. Voilà.
Alors, je suis bien d'accord. Je ne voudrais surtout pas donner l'impression que mon propos, c'était les monnaies complémentaires ou les micro-trucs. Moi, je parle bien des 95%, mais il me semble qu'en amont de la finance, il y a la banque, donc tout l'aspect crédit, honnêtement, et ce lien qu'il y a avec la consommation toxique, etc., qui me semble faire partie du paysage.
C'est ça, on va parler, je pense. On va pas arrêter d'en parler.
Oui. Oui, Adrien. Peut-être c'est ailleurs.
Je crois que ça ne marche pas du tout.
Oui, si, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Effectivement, on parle d'économie de la contribution. Moi, de mon point de vue de formateur et autres, je ne sais pas, est-ce que c'est ici ou pas qu'on traitera les questions au fond psychologiques de l'économie de la contribution, parce qu'il y a en amont, dans l'économie de la contribution, cette idée qu'on peut fonctionner autrement, qu'on peut gagner ensemble, et ce n'est pas gagner, y compris si les banques changent, que l'individu comprenne cette possibilité de faire ensemble, de construire ensemble, de travailler ensemble. Donc, quand il y a économie de la contribution, moi, je mets derrière aussi les raisons pour lesquelles nous n'avons pas, sauf dans certains lieux privilégiés, une économie de la contribution. Et ça pose la question des formes mentales qui permettent ou pas une économie de la contribution. C'est juste de savoir si on le traitera ici, et si oui, quand est-ce que c'est, ou si on le traitera ailleurs.
Écoutez, on ne peut pas tout traiter à la fois. Je comprends très bien les desiderata des uns et des autres, mais restons-en donc à ce qu'on a essayé de contenir aujourd'hui, parce que sinon on n'avancera même pas sur les sujets que l'on veut contribuer. Quoi ?
Je ne parlais pas d'aujourd'hui.
Oui, non, mais on parlera en dernière partie de la séance justement des programmes à venir. Hein, et donc ça sera le moment d'en discuter. Bon, j'espère là qu'on entend mieux quand on s'approche vraiment du micro. Pour les ceux qui sont à l'extérieur. Voilà. Bon, alors donc, je commence ma première partie. Je vais essayer de faire cela en 10 minutes, un quart d'heure, de façon à laisser le temps de la discussion, parce qu'il est déjà 2h30 et le temps court. Alors, ma première partie, c'est la financiarisation de l'économie. Vous en avez tous entendu parler. On a tous... je dirais souffert avec la crise qui est intervenue. Il faut rappeler que Ars Industrialis, dès pratiquement son manifeste et dès sa première année, avait mis en valeur le problème de l'impasse de la finance telle qu'elle était, elle s'était développée en Occident, donc dès 2006, bon, je rappellerai simplement que j'avais fait à la colline... une intervention sur le thème impuissance publique et logique financière, en tentant d'expliquer donc ce que beaucoup disent qu'ils n'ont pas vu venir, ce qui s'est passé à partir de 2007, mais en fait, et nous ne sommes pas les seuls, il y avait déjà beaucoup d'économistes, peut-être pas ceux qui intervenaient le plus dans le public, qui étaient conscients des problèmes. Alors, je vais simplement vous faire un petit rappel de quelques points focaux qui me paraît important de rappeler sur les aspects de sa financiarisation. Bon, elle a eu pour origine, vous le savez tous, dans les années 70, la déréglementation qui était intervenue dans les pays anglo-saxons, qui impliquait l'abandon de la souveraineté des États sur la création monétaire au profit d'une doxa qui s'appelait l'autorégulation par des marchés financiers non contrôlés. Alors, quels en ont été les effets ? Je vous rappelle quelques points principaux. Hein, il ne s'agit pas du tout de faire une exhaustivité de ce qui s'est passé. Je dirais simplement, en prenant, par exemple, on disait qu'on n'était pas les seuls, que Michel Aglietta avait fait un petit article que j'ai retrouvé en préparant cette réunion dans Libération, là, le début 2008. Donc on était au début de cette crise. Il nous disait ce qui s'est passé dans la finance... Il s'agissait pour ces acteurs de faire du profit sans risque, mais produisant, produisant de la déséconomie dans le langage d'Ars Industrialis. Et ça résume bien ce qui s'est passé depuis lors et ce qui continue à se passer. Alors, comment s'est-il arrivé ? Bien, en fait, par cette déréglementation, les principaux acteurs financiers, c'est-à-dire les grandes banques qui gèrent non seulement l'épargne et les fonds publics de gestion, mais nourrissent les marchés financiers en finançant les États d'une part, la dette des États d'une part et celle des entreprises, se sont autonomisés complètement avec ce qu'on a appelé la logique financière, qui est en fait la recherche de gains spéculatifs sur tout ce qu'ils font, y compris ce qu'ils produisent pour les entreprises, sur le plus court terme possible, et en titrisant ces titres, c'est-à-dire qu'ils prennent les commissions et ils ne gardent rien pour eux, quelle que soit la qualité du produit qu'ils vendent. Ça a été le ver dans le fruit qui a appelé Michel Aglietta, dans cet article que je vous citais de 2008, un mélange de laisser-faire et d'incompétence. Incompétence, d'ailleurs, on pourrait en douter, en tout cas, car je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, en fait, ceci a été fait sous l'égide, bien sûr, avec le laisser-faire des États, mais avec les principales banques occidentales qui avaient les moyens d'orienter les marchés financiers à peu près comme ils le voulaient, car on peut faire des bénéfices à la hausse des marchés financiers comme à la baisse à partir du moment où qu'ils se mettent tous ensemble, d'accord, pour aller dans le sens qu'ils veulent et donc en orientant ces marchés de façon totalement spéculative. Donc cette prédominance de quelques acteurs financiers nous a fait dire qu'au moment du démarrage de la crise, là, début 2008, que si l'un d'entre eux se cassait la figure, ça pourrait dérégler tout le système. Et quand les Malsat en octobre 2009 effectivement est tombé, on a bien su après coup que ça a été un malentendu entre la Fédérale Réserve et les banques, chacun jouant à cache-cache, qui n'a fait qu'accroître la dimension de la crise, car à partir du moment où il n'y a plus de confiance entre les acteurs, bien c'est là où ça devient très grave. En fait, ça s'est traduit, donc, cette expansion des marchés financiers par les banques qui offraient la possibilité tant aux États qu'aux entreprises et aux personnes privées de leur offrir des prêts. Et on a vu que donc les déficits, les déséquilibres n'ont fait que s'accentuer, mais comme il y avait des marchés qui permettaient d'absorber les dettes publiques comme les dettes privées, et que ces établissements titrisés auprès de fonds de gestion, auprès de fonds d'assurance qui, avec les agences de notation, leur disaient que c'était des prêts sans risque, tout le monde absorbait et considérait que ça pourrait continuer indéfiniment. Donc on est arrivé à ce qu'on a vu au moment de la crise, à un surendettement généralisé, que ce soit près des États, en tout cas dans les pays occidentaux, et des personnes privées comme des entreprises. Enfin, l'autre point saillant a été l'emprise qu'on a appelée la gouvernementalité actionnariale au sein des entreprises et qui n'était plus entrepreneuriale. Ce qui veut dire que les dirigeants d'entreprises faisaient corps avec les actionnaires pour obtenir des rendements maximum, qui n'avaient plus rien à voir avec des rendements, de production, de productivité ou de croissance normale de 4 ou 5%. Il leur fallait obtenir 15 à 20%, et pour cela, on jouait sur le court terme, c'est-à-dire qu'on vendait des actifs, on jouait sur des produits financiers les plus risqués pour chaque année arriver. Et conséquence sur le plan sociétal, on gelait les masses salariales, on débauchait, on délocalisait, on précarisait les emplois. Enfin, vous connaissez tous ce qui s'est passé. Donc la gouvernance actionnariale, et ça faisait dire d'ailleurs à Adam Smith, dès le XVIIIe siècle, que s'il y a trois acteurs, au sein des entreprises, la puissance publique, les actionnaires et les salariés de l'entreprise. Si la puissance publique et les actionnaires se mettent d'accord, Adam Smith avait tout de suite vu qu'il y aurait un dérèglement sociétal profond, et ça, c'est pas souvent cité, cette réflexion d'Adam Smith, qui s'est révélée, hélas, aujourd'hui, totalement vérifiée. Alors, tout ceci aboutit à un mode de développement qu'on peut qualifier d'autodestructeur, parce qu'on en a vu les limites de l'endettement, elles ne peuvent pas se faire sans limite, quand aujourd'hui l'endettement public de beaucoup d'États occidentaux est de 100%, est passé de 40% à 60%, voire 80%, et on sait qu'il y a une limite, enfin, beaucoup d'économies disent qu'au-delà de 80% par rapport au PIB, quelle que soit la dynamique de la croissance de l'économie, il y a un poids de la dette. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les taux sont maintenus artificiellement bas pour sauver et les banques et les États, mais que s'il y avait, par un jeu de rapport entre les pays asiatiques, par exemple, une obligation de relever les taux d'intérêt, ça créerait une crise encore plus majeure. Ça, alors, autre point, la socialisation des pertes des créances insolvables. Nous l'avons bien vu que les banques, pour éviter la faillite, se sont fait prendre par les États une partie de ces créances. Et ce sont des sommes colossales. On a même vu la Banque Centrale Européenne demander une augmentation de capital. Ça a été peu dit dans la presse pour faire face aux créances pourries qu'elle était obligée de passer en perte et qu'elle avait rachetées, pas simplement pris en pension, mais rachetées aux banques. Et puis nous avons vu aussi une inflation des prix sur les marchés financiers, sur les matières premières, sur les biens immobiliers, tout ce que nous vivons aujourd'hui, car à remarquer que depuis la crise, rien n'a été modifié sur les tendances, j'allais dire, autodestructrices. Et quand on parle de reprise, on peut bien le croire, on aimerait bien le croire, mais à partir du moment où rien n'a été remédié à tous les dysfonctionnements globaux, on ne voit pas comment la crise, peut-être des crises encore plus violentes, pourrait se passer. Et on voit bien d'ailleurs les effets sur le plan social, non seulement dans les pays du Sud, mais dans nos économies aussi. Voilà. Et enfin, dernier point, qui me paraît important de vous signaler aussi, c'est ces acteurs financiers. Moi, je prétends qu'ils sont en état de faillite virtuelle. Alors, vous me direz, vous avez vu la Générale et Paribas annoncer des bénéfices absolument colossaux. Comment sont-ils faits, ces bénéfices? On n'a pas encore leur compte, mais quand on regardera d'un peu plus près, vous verrez probablement qu'il y a des bénéfices sur opérations, j'allais dire, financières pures pour compte propre, d'une part. D'autre part, ils bénéficient de taux de 1%, 1,5% sur les marchés monétaires, et ils vous refinancent à 7%, 10%, voire 20% crédit à la consommation. Donc ils ont des marges absolument colossales qu'ils n'ont jamais eues. Ça permet tout de même, effectivement, de se remeubler. Mais, un dernier point, ils n'ont plus recours depuis mars 2009 au mark-to-market qui leur permettait des produits qui sont absolument aujourd'hui invendables, incessibles et qui ne valent n'ont plus de cotation, donc ils devraient provisionner à 30, 40, 50, 60 ou 70%, ils ne sont pas obligés de les provisionner. Donc, sauf le jour où ils viendront à échéance, et si la situation n'était pas rétablie sur le plan des produits, ils sont bien obligés de les passer en perte. Donc ils sont en train d'essayer d'accumuler quelques... à la condition qu'ils ne passent pas en dividende en majeure partie ou en bonus, ils sont en train d'essayer d'accumuler un certain nombre de bénéfices pour renforcer leurs fonds propres face aux provisions qu'ils n'ont pas faites. C'est bien pour ça que je dis, et d'ailleurs, pour dire qu'ils sont en faillite virtuelle, ils sont incapables, aujourd'hui, ils continuent à être incapables de se prêter mutuellement, puisque ce sont les banques centrales qui sont aujourd'hui, qui font l'intermédiaire en prenant en pension et voire en rachetant des titres pourris, comme je l'ai dit là, précédemment. Voilà l'essentiel de ce que je pouvais vous dire sur ce point de la financiarisation. Donc la situation n'est pas brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, on s'aperçoit que rien n'a été modifié. Et c'est là où on vient.
En même temps, quand on lit un petit peu les interviews à droite et à gauche des banques qui ont renoué effectivement avec les bénéfices, et pas des moindres, parce que notre ami, enfin, entre guillemets, Société Générale,
oui,
a sextuplé les bénéfices, oui. ce qui fait assez conséquemment. Ça veut dire en gros quoi? Ça veut dire que toutes ces opérations pourries sont en train d'être réabsorbées. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se cachent? Parce que dans ton analyse, tu dis sextuplé comme avant, mais quand même, s'ils ont pu rebondir, il y a quand même un nettoyage qui a été fait, même si leurs modes de fonctionnement n'ont pas été modifiés.
Mais je pense, enfin, je n'ai pas les moyens de prouver ce que je dis, mais tout le monde sait très bien qu'il y a de tels montants. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Europe, où les banques allemandes et françaises ont de tels engagements sur la Grèce, l'Espagne et le Portugal, qu'elles refusent la restructuration de ces dettes qui sont indispensables, en tout cas pour la Grèce, parce qu'elles n'ont pas été capables de les provisionner. Donc elles se donnent effectivement des moyens, et les États les aident par ces taux d'intérêt faibles à provisionner, mais je pense que les montants sont tellement, comme vous savez, qu'en matière de produits financiers, c'est plus de 700 000 milliards d'engagement brut, dont personne, même les banques elles-mêmes, ne sauront pas comment se délouer. En même temps, il y a l'immobilier, il y a une crise de l'immobilier tout de même qui est venue, et qui beaucoup de crédits immobiliers qui viennent à échéance en 2011 et 2012, donc je suis convaincu qu'il n'y a pas grand-chose de provisionné. Donc c'est bien pour ça, il ne faut pas se leurrer, quand ils annoncent des profits, ils le font, il n'y a plus aucune transparence de ces résultats, et en même temps, on voudrait leur imposer des ratios, ce qu'on appelle ratio coût de fonds propres, donc ils essaient de ça, mais vraiment, ils sont dans une situation que moi je qualifie de lamentable, et pas du tout de...
Bon.
Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Bon, c'est pour ça qu'on en reviendra tout à l'heure aux solutions de... Bon. Alors, on en reviendra aux questions peut-être un peu après, parce que sinon je voudrais terminer ça et qu'on en vienne aux questions un petit peu après. Donc, alors, je voudrais vous citer simplement, parce que malheureusement, il faudra qu'on passe le plus vite possible aux propositions, aux paradigmes fondamentaux qu'il s'agit de, aujourd'hui d'être conscient qu'il faut que les voir évoluer pour nous permettre d'arriver à la finance contributive, de la voir émerger. Et il y a beaucoup de points, comme on va le voir, sont loin d'être mis sur la place publique aujourd'hui, y compris bien sûr au G20. Alors, l'autorégulation des marchés financiers, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Plus personne ne peut prétendre aujourd'hui qu'il y a une autorégulation des marchés financiers parfaite, y compris les économistes libéraux. Mais hélas, ils continuent à dire qu'il n'y a pas besoin de remettre en cause la libre circulation des capitaux, que les anticipations rationnelles devraient permettre une bonne régulation, une meilleure régulation par les marchés financiers que par les interventions étatiques, et qu'il s'agirait simplement d'un peu plus de transparence dans les informations, et qu'il y ait un peu moins d'excès, et que donc un peu plus de régulation remédierait à tout. On l'entend encore, c'est tout de même ahurissant. Hein, mais, et des économistes parmi les plus connus, que ce soit en France ou ailleurs, continuent à tenir ce langage. Alors, je vous ai parlé de la logique financière, je crois que tout le monde est convaincu que là aussi, ça nécessiterait une autre attitude des banques qui reprennent. Ça pose la question de savoir quelle est la mission de créer de la monnaie. C'est quand même un bien public, la monnaie, qui a des incidences sur tout le monde. Et quand on voit des acteurs qui se sont totalement autonomisés pour gagner le maximum, Bernard en parlant en disant que ce sont des profits fictifs, mais ce sont des profits fictifs qui se mettent dans la poche sur le court terme. Hein. Et après, ils n'ont plus besoin de travailler au bout de quelques années, où ils se font donner des retraites chapeaux, comme on dit, colossales, quels que soient les dégâts sociaux et entrepreneuriaux qu'ils ont faits. L'augmentation des dettes publiques et privées sans limite, ça a été fait grâce, il faut le dire, grâce à la valorisation parallèle, et ça c'était vraiment une politique qui était faite par la valorisation parallèle des patrimoines immobiliers. C'est ce qui a fait dans l'affaire des subprimes, ce qui a pu beaucoup leurrer, beaucoup, et il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein, ça s'est passé en Angleterre, en Espagne, on le voit, en disant votre actif augmente, votre patrimoine augmente, vous pouvez continuer à vous endetter, quelle que soit la stagnation de votre revenu, vous revendrez à un moment donné votre truc et on vous fera faire une autre belle opération. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se sont fait avoir, et en tout cas au niveau du privé, c'est ce qui a permis l'augmentation colossale aussi, car on parle beaucoup des dettes publiques, mais il y a quand même un problème, un peu moins en France, mais dans beaucoup de pays, un problème de surendettement privé, ce qui pose la question de la reprise aussi, comment, si on n'augmente pas les salaires, comment, on y viendra tout à l'heure. Ça a été fait aussi sur le plan du doxa, de primauté de la concurrence, ce qui est quand même un paradoxe par rapport à l'ère de la révolution numérique qui permet justement des coopérations, coordinations, et on s'aperçoit que la richesse, elle vient beaucoup plus de là. Mais en niveau en particulier de la communauté européenne, on voit bien que ça continue à être la base de la doctrine, et surtout ça permet, là aussi dans la doxa libérale, de mettre en concurrence et des entreprises qui étaient jusqu'à présent publiques ou un peu monopolisatrices parce qu'elles avaient des opérations de services publics, et même des services publics, sous prétexte de cette convention. Or, on voit bien qu'aux États-Unis, comme en Angleterre, bien souvent, un certain nombre de services publics qui se sont vus concurrencés par des entrées, donc sur les transports ou l'énergie, les résultats, au bout de quelques années, ne sont pas traduits forcément par une amélioration et par contre, au contraire, par une débauche d'investissement mal orienté. Enfin bref, l'optimisation, on ne l'a pas vu forcément de ce côté-là. Alors ça pose aussi la question des instituts financiers, des grands établissements, qui aujourd'hui sont multinationaux et multimétiers, puisque vous voyez, prenons le Crédit Agricole, c'était une banque mutuelle à l'origine dédiée à l'agriculture. Ensuite, elle a absorbé une banque d'affaires qui s'appelait Indosuez, puis elle a absorbé une banque de dépôt qui s'appelait, enfin, banque de dépôt et en même temps de faire Crédit Lyonnais. Elle s'est mise dans l'assurance, elle a racheté des sociétés de crédit à la consommation, et aujourd'hui elle occupe avec le BNP Paribas pratiquement, ils sont à deux à contrôler le crédit à la consommation. Donc ça veut dire, d'après beaucoup de gens, too big to fail, quelle que soit leur situation. Ça pose quand même un problème, puisque ça leur permet, ce que Michel Aguilletta, encore lui, parce que je pense que c'est quelqu'un d'important qui compte dans la réflexion sur l'économie, avait dit, ça leur permet d'être des prédateurs, puis quels que soient les risques qu'ils prennent, ils sont sûrs de s'en sortir in fine. Alors on en arrive donc aux états, comme vient de dire, des états prêteurs en dernier ressort, là, qui est quand même une doctrine qui mérite d'être remise en cause, même si effectivement ce ne serait pas évident de voir tomber des très, très grandes sociétés, mais je pense que c'est en divisant, en empêchant ce qui était fait, qui a été fait, il faut se rappeler après la crise de 1929 aux États-Unis, hein, où Roosevelt avait séparé les activités de banque de dépôt et de banque d'investissement, et ça n'est revenu qu'à l'ère Clinton dans les années 75, je crois, ou même 80, où on a pu fusionner des banques de dépôt, puis devenir aussi des banques d'investissement. Un autre point, là, on le faisait à l'Union à propos de la demande, la non-indexation des salaires pour éviter l'inflation, ça a été effectivement, il faut se rappeler qu'à la fin des années 70, il y avait une super inflation, et c'est à partir de ce moment, de cette date, plutôt même des années, début des années 80, que dans la plupart des pays, on a désindexé de l'inflation, les salaires, et ça, au même moment, arrivait la mondialisation qui a monté une concurrence sur les niveaux de salaire, et qui a créé cette déflation salariale qui pose un problème aujourd'hui, en particulier dans nos économies occidentales. Enfin, quand on parle de l'Europe, aujourd'hui, tout le monde s'est aperçu des insuffisances de l'Europe, et on en parlera tout à l'heure. Moi, personnellement, je ne vois pas comment on s'en sortira si on ne veut pas vraiment construire une Europe fédérale. On en parlera tout à l'heure. Et bon, il y a plusieurs façons de concevoir cette Europe fédérale, mais la coordination des politiques avec des économies qui ne sont pas du tout au même niveau, qui sont des rapports de force totalement inégaux, enfin font que s'il n'y a pas un minimum de mutualisation, je ne vois pas comment on arrivera à faire de l'Europe une puissance qui compte à l'ère où on parle beaucoup de mondialisation, mais je pense qu'il se constitue aujourd'hui des blocs économiques régionaux, et que si l'Europe n'est pas capable de devenir un bloc ayant un minimum d'homogénéité, eh bien on continuera à notre décadence présente. Enfin, il y a un autre point important quand on parle d'endettement, c'est les émissions d'obligations en devises étrangères, l'émission d'obligations publiques. Moi, je pense beaucoup au Japon, qui a aujourd'hui, les chiffres officiels ne donnent certainement pas l'état de l'endettement public, puisque cet état depuis plus de 10 ans, ne finance que 50% de son budget. Et néanmoins, ils se financent ils ont une épargne considérable en leur sein, et ils se financent à 98% par leur propre épargne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je prétends qu'ils ont au moins 300% d'endettement par leur produit, et que ça ne les empêche pas de ne pas avoir de pression étrangère, qui fait qu'ils ont des problèmes, mais qu'ils peuvent les régler par eux-mêmes, ou en tout cas s'efforcer de les régler par eux-mêmes, et ils n'ont pas cette pression que peuvent avoir aujourd'hui les pays occidentaux vis-à-vis des... Et là, je pense que ça mérite une réflexion, puisqu'en Europe, il y a une épargne considérable et qu'on n'est pas obligé de... à mon avis, on n'est pas obligé de se retrouver à 50% de nos émissions financées par de l'épargne totalement étrangère. Enfin, bon, ça va de soi, mais je le cite tout de même. Il y a l'aspect aussi de réglementation des produits dérivés, des produits financiers complexes, qui étaient à l'origine dits d'assurance et qui sont devenus des produits de spéculation pour l'essentiel, et qui ont un effet de contagion et de systémie le jour où qu'aujourd'hui les banques ne sont pas capables de comptabiliser dans leurs provisions. Il y a un problème majeur là, qui est l'incitation à la spéculation grave. On l'a vu d'ailleurs au moment de l'émission enfin des problèmes grecs illustrés où Goldman Sachs avait totalement occulté l'endettement de la Grèce et en même temps spéculé par des produits en les vendant à ses clients. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce premier temps. Alors, on peut se donner peut-être 10 minutes de questions, et puis on passera ensuite à l'état des propositions dans le débat. Je vous ferai un petit panorama que je voulais proposer de ce qui se dit dans le débat public au niveau de ces réformes et régulations. Voilà. Attends, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne vois plus même. Vous m'avez entendu ? Il est disparu.
Oui, oui, on a bien entendu.
Bon.
You are now muted.
Oui, moi aussi.
You are now unmuted.
Bon, alors, j'ai très bien entendu.
You are now muted.
Bernard, tu veux dire un mot ?
You are now unmuted.
Bon, alors, vous parlez, j'ai l'impression que...
Bon, moi, je prends la parole, si personne ne prend.
Bon, moi, je veux bien dire un mot. C'est Bernard Stiegler. Vous m'entendez ?
Oui, oui, très bien.
Je veux bien dire un mot.
Bon. Oui, Bernard, on vous entend bien.
Vous m'entendez ?
Si, on entend bien. On entend bien, oui.
D'accord. D'accord. Je voulais juste, d'abord, un tout petit détail, Arnaud. Moi, je ne parle pas de produits fictifs. Je parle de vol, c'est pas la même chose. Les produits fictifs, c'est un vaste sujet. Je pense que la question du fictif dans le capital est un problème très complexe. Par exemple, les 700 000 milliards de dollars qui circulent, évidemment, sont du capital fictif. Et parmi ces 700 000 milliards de dollars qui circulent, il n'y a pas forcément des capitaux qui procèdent du vol. Bon, c'est un énorme sujet, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il faudra peut-être qu'un jour on y revienne, cela dit, parce qu'il y a derrière cette question une question de la philosophie de la propriété, du rapport entre capital, propriété et vol. Et on pourrait substituer au mot propriété le mot socialité sociabilité du capital, c'est-à-dire un capital qui détruit le social ou un capital qui contribue à un certain type de socialité capitaliste. Bon. Mais ça, c'est un sujet, je dirais, de normes, donc peut-être qu'on prenne le temps de l'étudier un jour et d'en parler, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En revanche, je voulais revenir moi, sur ce que disait Sam tout à l'heure, tout ce que j'en ai compris, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas entendues. J'ai un petit peu mieux entendu la réponse, enfin, l'intervention de Franck dans le reste. Je crois moi, que en fait matière, je dirais, si j'ai bien compris, d'une part, des organisations totalement, ou pas forcément totalement, disons, fortement alternatives à la finance mondiale, et d'autre part, cette finance mondiale, telle que par exemple Arnaud vient de la décrire, il faut essayer d'articuler ces choses-là dans une trajectoire temporelle. Ce que je veux dire par là, c'est que d'abord le premier problème qui se pose, comme vient de très bien le décrire Arnaud, c'est que nous vivons sur une poudrière financière qui va nous sauter la figure. Et ça n'est pas avec du microcrédit ou des choses comme ça que le problème va se résoudre. Il y a des mesures d'urgence absolues à prendre par rapport au système financier tel qu'il est aujourd'hui, en fait, qu'il est aujourd'hui, bien entendu, tel qu'il est issu d'un modèle d'économie financière qui remonte au XVIIe ou XVIIIe siècle, par rapport à quoi il faut faire des propositions extrêmement précises. Donc, ils sont, d'une part, des propositions de type de régulation, etc., etc., et d'autre part, des propositions de, pas simplement de régulation, mais de nouvelles règles, à l'intérieur desquelles je crois, moi, qu'il est possible de, je crois que c'est le sens des propositions d'Arnaud en particulier, de créer les conditions d'une évolution vers une économie compétitive. Par ailleurs, il y a à l'intérieur de,
à partir d'une telle possibilité qui est un état d'urgence absolu et par rapport auquel il faudrait apporter des réponses urgentes, mais qui en même temps ne soient pas court-termistes, qui soient des réponses urgentes qui ménagent des possibilités à long terme, à moyen terme et à long terme, il y a la question de la manière de faire évoluer le système financier dans la durée. C'est tout à fait comparable à ce qu'on a dit dans le manifeste 2010 par son industrialiste, en disant on est dans une économie consumériste et on est encore pour pas mal de temps, même si nous disons que nous sommes dans une société post-consumériste, dans une situation post-consumériste, c'est ça qui est un peu paradoxal, j'en conviens, mais c'est en même temps absolument classique, c'est-à-dire que la dynamique nouvelle n'est plus consumériste, mais la réalité reste consumériste. Et il reste que, je ne sais pas, je ne saurais absolument pas quantifier cela, mais certainement plus de 90%, et peut-être même plus de 95% de l'activité économique va continuer pendant encore pas mal de temps sur le modèle consumériste. Et ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, ce qui est important, c'est de produire de la lisibilité et de la visibilité sur un avenir qui véritablement fait des alternatives. Quand je dis des alternatives, je n'entends pas une économie alternative parallèle qui se ferait à côté d'une grosse économie qui resterait massivement capitaliste, consumériste, etc. Je parle d'un changement du modèle économique, industriel et simplement industriel, bien entendu. Mais essentiellement du modèle industriel, parce que c'est ça le sujet. Ce n'est pas des choses qui se font à côté qui nous intéressent. Les choses qui se font à côté nous intéressent aussi en tant qu'elles peuvent donner des idées pour modifier ce qui se fait au cœur du système. Quoi qu'il en soit, par rapport à cela, il y a toute une série de questions à résoudre progressivement sur un agenda, il faut l'appeler comme ça. Je prends un langage qui est celui de l'Union européenne, mais c'est pas du tout pour faire celui de l'Union européenne, mais en tout cas, il y a un agenda, c'est que par exemple, il y a à avoir des plans de progression de modèles contributifs dans le domaine financier, dans le domaine industriel, qui s'étendent progressivement à un certain nombre de secteurs industriels. Par exemple, dans un secteur où il est évident que ces dimensions sont déjà effectives, en très grande partie, c'est le secteur du logiciel. Et le secteur du logiciel, c'est un énorme secteur économique. C'est un secteur clé, en plus. C'est pas, il n'est pas seulement énorme par le business qui s'est produit en chiffre d'affaires, mais parce qu'il est la clé de tous les autres secteurs. Celui qui ne peut pas intervenir sur ce secteur-là est un mineur sur le plan économique. Celui qui peut intervenir sur ce secteur-là est un majeur sur le plan économique. C'est d'ailleurs pour ça que la Chine est en train d'investir énormément dans ce secteur. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui sont prometteurs, à mon avis en tout cas, où une économie industrielle consumériste peut se développer. C'est d'abord le secteur de l'énergie. Mais il y a tout de sorte d'autres secteurs qui peuvent se développer. Ça, c'est la question des secteurs, l'approche sectorielle. Il y a d'autres questions. Par exemple, les questions de la propriété. Quand on parle d'argent, l'argent mesure de la propriété. Combien vaut votre propriété, par exemple, à l'argent sera à faire. Combien d'argent j'ai, on m'a volé mon argent, l'argent m'appartient. C'est quelque chose qui, Arnaud le disait tout à l'heure, est un instrument public, mais en même temps il est privatisé toujours. C'est-à-dire que c'est mon argent. En tout cas dans une société qui n'est pas communiste. Et cet argent qui m'appartient, il est lié à un système de la propriété. Si nous disons maintenant, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du capital antisocial, c'est-à-dire du vol, du profit destructif qui détruit la société et qui constitue du vol en ce sens-là. À partir du moment où on va réfléchir sur l'économie de la contribution en termes, par exemple, de socialisation du capital, c'est-à-dire est-ce que les modèles coopératifs, les modèles de SCOP, les modèles mutualistes, etc., etc., inspirent une évolution progressive vers une généralisation de ce type d'évolution de la propriété. Bon, ça, ce sont des questions qu'il faut passer aussi sur un agenda. À l'intérieur de cet agenda, je donne des exemples, il y en a beaucoup d'autres, et je vais m'arrêter de parler. Mais à l'intérieur de cet agenda, il y a évidemment la question du microcrédit, il y a évidemment la question des modèles alternatifs, il y a aussi des questions que Franck a, des propositions que Franck a faites en matière de banques et de prêts sur d'autres modèles que celui du microcrédit. Il en parlera, peut-être qu'il en a parlé tout à l'heure, j'entendais pas très bien. Mais en tout cas, je pense que si nous voulons être véritablement efficients, écoutez, Karl Marx, un certain nombre d'économistes qui ne sont pas du tout des orthodoxes, mais qui sont connus comme économistes. Ou Jean Cadret. C'est pas moi qui suis allé les chercher, c'est eux qui sont venus nous chercher, qui sont venus me chercher, pour que nous discutions. Ils m'ont dit, nous avons à parler avec Arsenic Smith. Ce que je veux dire par là, c'est que Arsenic Smith, aujourd'hui, a maintenant une relative notre reconnaissance et notre orientation, en tout cas chez les très hétérodoxes, pour les comme ça. Nous avons par ailleurs travaillé avec Carlo Mechelon et Jean-Marie Monnier. On a fait une conférence à la Maison des économistes, où il y avait une vingtaine d'économistes professionnels, si je puis dire, et universitaires. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de notre groupe de travail, avec les propositions que nous avons à faire, qui passent par ailleurs par un certain nombre d'autres discussions, je n'ai pas le temps de parler, des publications que nous préparons, c'est de préparer un agenda de ce plan. Et donc, d'un état extrêmement responsable, en prenant en compte les énormes questions que soulevait à l'instant Arnaud, et pour lesquelles il ne s'agit pas d'apporter des réponses sectorielles, ce sont des réponses au cœur du système qui sont apportées. Et par ailleurs, il y a des innovations sociales qui se produisent, le microcrédit en ayant été une qui est maintenant très connue, mais il y a beaucoup d'autres, par rapport auxquelles il faut voir comment nous pouvons les transférer, ces innovations, et les inscrire sur un agenda, dans un compromis social, parce que le sujet, c'est un nouveau contrat social qui va nous discuter autour de l'économie. Donc voilà, je voudrais qu'on raisonne, moi, en termes, je ne dis pas ça pour aujourd'hui, hein, mais c'était pour rebondir sur les observations de Tam et de Franck tout à l'heure, et puis ensuite l'intervention d'Arnaud, pour essayer de donner une méthode de travail qui soit une méthode réaliste. Réaliste voulant dire, pour moi c'est très clair, ce qu'on fait là, c'est pour que ça impacte sur la campagne électorale et pas à la marge. La marge, c'est très intéressant, il dit pas plein de choses, mais là, il y a un état d'urgence absolu, et c'est pas à la marge qu'il faut aller, c'est au cœur. Voilà ce que je voulais dire. Et je coupe mon micro pour qu'il n'y ait pas d'écho quand je vais écouter vos réponses. Merci de votre attention.
Oui.
You are now unmuted.
Oui, alors, attends, est-ce que je suis passé? Voilà, vas-y.
Le micro. Oui, je vais essayer de parler plus lentement parce que effectivement, on ne s'est pas tout à fait compris. J'espère que là, c'est audible. On peut pas savoir.
Vas-y.
Okay. Donc, moi, je suis tout à fait en ligne avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que je suis bien d'accord qu'il y a un enjeu d'urgence, la poudrière de la finance et tout ce que tu as raconté à l'instant, Arnaud. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, mon propos, c'était sur le deuxième point qui était comment est-ce qu'on prépare le moyen terme et comment est-ce qu'on prépare cette transition vers un autre modèle. Et moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que ce qui m'intéresse ici n'est pas effectivement le microcrédit ou les modèles alternatifs, moi, ce que j'appelle les 5%, c'est clairement comment on travaille sur les 95% du mainstream et comment la finance contribue à faire émerger ce nouveau modèle de société. Et là-dessus, moi, ce que je voudrais prendre comme exemple vraiment très... Pardon, c'est bizarre, ça passe si mal. Alors, moi, ce que je voudrais vraiment mettre en évidence, c'est un peu ce que tu as vu quand on est allé ensemble à Los Angeles, c'est l'idée de dire que ce nouveau modèle de société, ça concerne en fait des modes de vie durables, c'est transversal. Donc ça touche tout ce qui est au cœur même de nos modes de consommation, de nos modes de vie, de nos modes de production, etc. Et l'idée que je voulais suggérer ici, c'était de travailler sur une finance d'amorçage qui permettrait de faire évoluer ce modèle en faisant apparaître des nouvelles possibilités à travers des pilotes. Alors c'est un peu l'idée de dire, on pourrait imaginer d'avoir une sorte de travail, comme pour le logiciel libre. Vous savez qu'on dit toujours le code source, une fois qu'il a été financé, après il est gratuit, mais au départ il faut bien financer les premiers qui développent le code source. Donc mon idée c'est de dire la même chose. Là il s'agit d'écrire le code source d'une nouvelle société, c'est ce qu'on a fait à Los Angeles, c'est ce qu'on est en train de faire dans d'autres sites pilotes, et l'idée serait de dire non pas de financer des microcrédits ou des trucs alternatifs qui sont effectivement marginaux aujourd'hui, mais de dire est-ce qu'on peut financer des pilotes qui vont dans le mainstream, c'est-à-dire des pilotes d'une autre société, d'un autre mode de vie durable, et donc de financer des expérimentations concrètes, genre ce qu'on a vu à Los Angeles, mais de le faire de manière beaucoup plus systématique en cherchant des territoires d'innovation. Là, je pense que ça rejoindra certainement ce sur quoi Franck travaille, mais à mon sens, aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord que pour faire atterrir l'utopie, il faut reterritorialiser toutes les expérimentations. Et donc, le propos était de dire, en supposant que la première étape est franchie, c'est remettre un peu d'ordre dans cette finance qui est une poudrière, la seconde étape, c'est de réfléchir à des finances qui permettraient de financer en amorçage des expériences pilotes de ce nouveau code source de société. Et de la même manière qu'on a financé des hackers qui ont fait des logiciels libres, qui sont devenus Wikipédia, Linux et autres, de dire on finance des gens qui expérimentent des codes sources d'une autre société, des gens comme Los Angoel ou BetZ ou plein d'autres, et du coup on se retrouve avec un financement à la fois public et privé, qui associe aussi bien des entreprises que des territoires pour expérimenter ces nouveaux modes de vie. Alors là, je parle de manière extrêmement concrète, c'est tous ces projets qui croisent libre et durable, et ce sont donc aussi bien des territoires d'expérimentation que des entreprises qui veulent, elles, mettre dans le marché d'autres productions industrielles, si on peut dire. Ça concerne notamment le Web 2, mais pas uniquement, ça tourne aussi autour de l'art, du design des territoires, etc. Donc c'était un petit peu ça que j'essayais de dire tout à l'heure, mais clairement, moi je suis comme ce que vous avez dit, je suis convaincu que la clé n'est pas le microcrédit, ni les modèles alternatifs, qui pour moi ne sont que du 5% de toute façon pour l'instant.
Oui, Bernard, oui, on le pense. D'accord, merci. Moi, par rapport à ce que vient de dire Sam, avec quoi je suis d'accord, bien entendu, sur le fait qu'il faut permettre de l'innovation, il faut encourager aussi de la re-territorialisation. Premièrement, je ne pense rien à ce que je disais, c'est-à-dire que, dans tous les cas, je dirais, il y a un état d'urgence, et ça, ça me l'a dit elle-même à l'instant, mais il y a un état d'urgence par rapport à ce qu'il faut réagir, et ça, ça concerne, c'est pas des innovations à venir pour plus tard, c'est tout de suite qu'il faut réagir. Mais d'autre part, par rapport à cette façon de soutenir des modèles, ce qu'elle appelle des pilotes, hein, si j'ai bien retenu, je suis assez d'accord, c'est un terme pilote qui vient de l'industrie, qui vient de l'audiovisuel. D'ailleurs, quand on veut faire une nouvelle émission de télévision, on appelle ça un pilote, on le sait. En termes de financement de cet investissement, parce que c'est un investissement, c'est ce qu'elle disait, à propos de logiciels libres, par exemple, parce que du livre apparaît, c'est des gens qui s'investissent pendant un certain temps. Et ce temps-là est incompatible. Et il faut bien trouver le moyen de soutenir. Il y a une très grande question qui se pose, qui est de savoir est-ce qu'il faut des fonds d'avantage, c'est un langage, le fonds d'avantage c'est un langage de banque de capitaux risqueurs, je connais très très bien, j'en ai moi-même créé un avec François Pécot à l'Université de Compiègne, c'est pas moi qui l'ai créé, mais j'ai plaidé avec François Pécot à l'Université de Compiègne, créer avec les partenaires un fonds d'avantage pour pouvoir développer des start-up et des PME autour de l'Université de Compiègne, c'est un sujet que je connais un petit peu. Mais moi, je crois que ça, c'est un choix. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. Parce que je pense, mais c'est un, je ne suis pas sûr du contraire, et peut-être qu'il faut essayer plusieurs solutions en même temps. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que ces questions-là relèvent d'abord d'un problème de fiscalité. Et ça, d'ailleurs, je crois que ça sera un sujet qui reviendra le 18 juin, si j'ai bien retenu la date, c'est-à-dire au moment de la réunion avec Arnaud et Jean-Marie Monnier. Avec Arnaud Michelin et Jean-Marie Monnier, on parlera des problèmes de revenus, notamment de revenus minimum. Tu parlais, ça, d'ailleurs, de Los Angeles. Bon, c'est un sujet que j'ai évoqué dans le Nord-Pas-de-Calais, qui était de transformer cette économie terrible du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, de l'économie de ce qu'on appelle les bas sociaux et de toute l'aide sociale qui plombe catastrophiquement les départements du Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, les masses financières, mais c'est absolument colossal, et c'est un argent qui est un argent fiscalisé, bien sûr. Ce sont des impôts qui sont redistribués vers des gens qui, évidemment, ne sont pas seulement des, en aucun cas, payent d'impôts, mais c'est l'argent que nous payons quand nous sommes imposables, qui leur ont regardé, et je trouve ça très très bien, hein, je suis pour cette justice, cette équité, il faut être solidaire avec eux. Mais en même temps, je pense que cet argent, il faudrait être dans les conseils généraux, pour commencer à réfléchir, non pas du tout évidemment sur le modèle Sarkozy ou ce genre de choses, qui veut dire luttons contre la cisterna et obligeons-les à devenir des entrepreneurs d'eux-mêmes, parce que ça, je n'y crois pas du tout. Contre ce discours, comme on dit à Tarasso, mais en revanche, je pense qu'il y a des façons de financer une véritable économie sociale et solidaire, pour le coup, qui est une économie contributive, qui produit une véritable valeur et qui invente véritablement de l'économie. Et qui peut être soutenue par la fiscalité, par la banque. Je pense que la fiscalité doit aussi servir à ça. C'est mon point de vue, mais j'ai fait tort. Ça, je le soumets à la discussion. Mais en tout cas, que j'ai tant que j'ai raison, je n'ai pas de point de vue véritablement arrêté en réalité, hein, c'est un sujet de débat, y compris pour moi. Mais ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas, voilà, je voulais en venir surtout, on ne peut pas séparer la réflexion sur la finance en tant que système bancaire, investissement, prêt, aide à la consommation, patati patata, de la question de la fiscalité. On ne doit pas séparer les deux. C'est ce qu'a essayé de faire le néolibéralisme, en opposant les deux, en disant la fiscalité, c'est on nous empêche d'agir, on nous empêche d'être libre, il faut laisser une initiative personnelle, c'est archi faux. La fiscalité sert à la liberté collective, sert à des visions socialisées. C'est un truc qui n'est pas individualiste. Le microcrédit, c'est bien. Les instruments nouveaux qu'on a pu développer, c'est bien. Le fonds d'amorçage aussi, mais je pense que ça n'est pas. Bah, ça ne doit pas se substituer à cette question financière. En quoi consiste aussi la fiscalité? Voilà, je coupe mon micro et je vous rends la parole.
Pierre Dumanil, donc je voudrais faire simplement une petite incidente. Je proposerais volontiers de regarder ce qui se passe en Islande. Parce qu'on cherche des points d'appui pour voir comment gérer autrement la crise. Et de manière très étrange, on ne parle pas beaucoup de l'Islande, qui a géré tout à fait différemment la question, puisqu'elle a mis, ses banques ont été mises en faillite, il y a eu une nationalisation, actuellement il y a apparemment une constituante qui s'est mise en place en Islande, et de ces affaires-là, il y a très peu d'écho. Donc je proposerais qu'on regarde attentivement ce qui s'y passe, et de voir si effectivement il y a par exemple... je pense que les Islandais ont perdu en pouvoir d'achat apparent énormément dans la période récente. Est-ce qu'il y a une recomposition du mode de vie? Est-ce qu'il y a, disons, des innovations qui apparaissent qui peuvent nous inspirer? Je crois que oui, mais je crois, c'est tout. C'est-à-dire que, en fait, il faudra aller pêcher l'info pour le savoir. Voilà. C'est une incidente par rapport à nos préoccupations. Parce que là, il y a un terrain d'expérimentation véritable qui peut être fructueux. Voilà ce que je voulais dire, simplement. Merci.
Franck va prendre la parole. Sur l'Islande, c'est gentil, mais c'est une île, en fait. Nous ne sommes pas une île, en fait. Nous sommes un certain continent. C'est très intéressant de prendre un appui sur une île quand on est un continent. C'est un problème de taille géographique. C'est une bonne idée. Non, c'est une très bonne idée. Ceci dit, le problème de l'échelle d'une île par rapport à un continent, c'est pas une même taille géographique. Par contre, c'est vrai qu'il faut voir. Je disais simplement que l'idée de prendre appui sur une île, c'est très intéressant, mais que nous, on était à l'échelle d'un continent, et en fait, l'idée, dans la géographie mondiale, un continent, c'est plus grand qu'une île. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe en Islande. Il y a aussi pas mal de points critiques, et en tous les cas, ça peut être aussi un point d'appui, mais absolument pas un modèle, parce que les échelles géographiques ne sont pas les mêmes. Oui, alors moi j'ai deux, trois trucs à dire en introduction. Bon, je pense qu'on est en train de confondre deux choses depuis le début. Moi, ce que j'appellerais en fait deux niveaux. La finance contributive, pour moi la finance contributive c'est quoi? C'est la microfinance, les monnaies complémentaires, on pourrait appeler ça la finance contributive. Puis il y a une autre question qui pour moi est centrale aujourd'hui, qui n'est pas cette question de la finance contributive, qui est le rôle de la finance dans l'économie de la contribution. Et ça, c'est pas du tout la finance contributive, évidemment. Et donc, évidemment, avant de développer un petit peu, il faudrait dire une chose, c'est que si on parle de la finance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'origine de la crise, il y a une crise financière. Bon, voilà. Et que cette crise financière, il faudrait, sans remonter en amont, mais dire qu'il y a une conséquence de cette crise, qui est la dette sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais sans remonter en amont, mais en faisant quand même peut-être un petit détour, c'est qu'en fait, c'est une crise, disons, cyclique, qui correspond évidemment à une impossibilité pour le capital d'investir. Tout simplement parce que les droits de propriété et les nouvelles technologies ne garantissent pas évidemment le capital. Tout le fait que le capital pour investir, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé les Américains devenus propriétaires. Et donc chacun a sa maison, même s'il n'est pas solvable. Donc ça, c'est vraiment important sur l'origine de la crise, parce qu'autrement on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Nous sommes dans les conséquences, en fait, d'un mouvement cyclique où la technologie et les régimes d'accumulation du capital sont fondamentaux. Alors, ce qui pose évidemment la question fondamentale aussi, ce sera mon premier point, d'une politique du capital, puisqu'en fait, quand on parle de la finance au sens de la finance dans le rôle de l'économie de la contribution, on parle d'une politique du capital au sens d'ailleurs de l'ordon. Le titre, je reprends à Lordon, même si d'une certaine manière, Lordon, quand il parle de politique de capital, il est dans une posture, disons, marxiste, disons, de... Je ne vais pas développer, mais de crise de sur-régime d'accumulation, etc. Enfin, disons, il est dans une posture d'énonciation, ce qui n'est pas la nôtre. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, la question qu'a posée Bernard tout à l'heure, sur la question du vol, en fait, c'est la question qui me semble décisive. Est-ce qu'il peut y avoir une socialité du capital qui ne soit pas une insociable socialité? Parce que ça veut dire que le capital aujourd'hui il socialise. Il socialise en fait sous le mode de la pauvreté, sous le mode des écarts gigantesques entre les riches et les pauvres, etc., etc. Donc ça évidemment c'est une vraie question qui me semble évidemment centrale. Alors sur ce problème des deux niveaux, je vais essayer de parler dans un premier temps, disons, du rôle de la finance dans l'économie contributive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premier point, il faut faire un tout petit rappel, parce qu'autrement on ne comprend rien du tout, sur qu'est-ce que c'est qu'en fait la finance en termes de marché. Il y a trois niveaux de marché, en fait, hein, il y a l'échange des actions, c'est-à-dire en fait, on échange des actions sur un marché, c'est de la finance, hein, c'est, grosso modo, c'est le niveau microéconomique, ça. Ensuite, il y a le marché d'échange, c'est-à-dire en fait, on échange de la monnaie. Donc en fait, on est au niveau macroéconomique. Donc ça veut dire que là, évidemment, on retrouve le capital non plus à un niveau, disons, interpersonnel, mais à un niveau générique, c'est-à-dire en fait entre nations, voire même, évidemment, les problèmes aujourd'hui, le dollar, le yen, quel est le niveau du yen par rapport au dollar, enfin, toutes ces questions-là. Troisième point qui est très très important pour nous, en fait, qui est le cycle du crédit et de la réglementation. Et là, on est à un niveau, disons, systémique, c'est-à-dire en fait trois niveaux du marché au niveau de la finance, le niveau des actions, échange d'actions, hein, portefeuille d'actions, le niveau d'échange des monnaies, et le niveau évidemment du crédit et de la réglementation du crédit. On en a parlé tout à l'heure, hein. Le problème aujourd'hui, évidemment, les banques, alors on ne va pas diaboliser les banques parce qu'en fait elles font un sale boulot pour l'instant, mais si elles font un sale boulot, pour autant, gardons la question et ne perdons pas de vue qu'il s'agit bien d'avoir une politique du capital, de socialiser la politique du capital, moi je dirais entre guillemets, de socialiser une politique du capital dans l'économie de la contribution, ce qui n'est pas du tout la posture, en fait, une posture des dénonciations critiques, qui par ailleurs est totalement judicieuse, mais qui d'une certaine manière, and so what, produit rien si ce n'est en fait une opposition entre Davos et Dakar. C'est-à-dire en fait des ritournelles dans un champ d'opposition avec la poudrière, pour prendre une métaphore, qui risque de nous péter à la figure. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, évidemment, c'est la question de l'efficience du capital. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui justifie en fait la logique des marchés? C'est l'efficience. Arnaud a parlé tout à l'heure, dans un point, de l'auto-efficience du capital. Et d'ailleurs, tu dis, mais c'est scandaleux de parler de l'auto-efficience du capital aujourd'hui. Cette question, évidemment, elle est centrale, puisque en fait, la rationalité qui est mise en œuvre sur les marchés financiers, elle est justifiée par le concept d'efficience. Et je vais faire un tout petit détour par, en fait, le concept d'efficience. Dans un premier temps, en fait, ça veut dire quoi, le concept d'efficience? Ça veut dire qu'en fait, le marché, il est rationnel. Donc il y a une rationalité intrinsèque au marché. Ce qui veut dire qu'en fait, on doit avoir, disons, un principe de certitude, enfin un principe de certitude qui règle le rapport hasard-incertitude sur le marché. Il y a trois approches, en fait, de la communauté des banquiers sur, en fait, cette politique de l'efficience. Je vais vous citer quatre lignes, hein, pour les résumer, quatre lignes. C'est pas moi quatre lignes que je prends dans un ouvrage qui est par ailleurs très intéressant, de Sauvage, qui est un très bon technicien de la finance. Trois approches qui permettent de voir, vous allez voir, sur le concept d'efficience. Première approche qui est en fait l'approche fondamentaliste. Selon les tenants de l'approche fondamentaliste, les marchés sont prédictibles à moyen terme, mais ne le sont pas à court terme. Donc ça veut dire que l'efficience, vous voyez, court terme, moyen terme. Là on est sur le problème des cycles de temporalité dont parlait Bernard. Donc ça c'est la première approche. Deuxième approche, ça veut dire que les gens qui sont traders aujourd'hui, ils sont dans une des trois théories que je vais définir. Deuxième approche, en fait, qui est en fait... Une approche technique. Dans la deuxième approche, l'approche dite technique. Donc les marchés sont prédictibles à court terme, ne le sont pas à moyen terme. Donc ça veut dire que c'est l'inverse de la première. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur des gens qui jouent avec l'argent dans le capital fictif de tout à l'heure, deuxième posture. Troisième posture, en fait, c'est l'étonnement de l'approche quantitativiste. Et en fait, les marchés ne sont prédictibles ni à court terme, ni à moyen terme, car ils suivent une marche au hasard. Donc ça veut dire que, troisième cas de figure, on est sur le concept d'efficience, on marche sur la tête, entre guillemets, dans les trois cas de figure. Alors, si j'avais un peu de temps, mais je n'ai pas trop développé, il y a des hétérodoxes, c'est-à-dire en fait des gens qui ne croient pas au salade que je viens de vous raconter, c'est-à-dire en fait les trois théories rationnelles de l'efficience des marchés, de l'auto-efficience des marchés. Ces deux économistes hétérodoxes, c'est pas deux financiers, je vais faire un peu de provocation, en fait c'est Soros et Buffett, qui sont en fait deux capitalistes, deux milliardaires, qui sont en fait deux personnes qui d'une certaine manière n'ont pas joué du tout la carte de ce que je viens de vous dire. Et donc d'une certaine manière qui ont bâti leur richesse sur autre chose. Alors je ne vais pas développer sur, faire l'apologie de Soros et de Buffett, j'en parlais tout à l'heure en conclusion. Mais ce qui me semble intéressant, c'est l'hétérodoxie. C'est-à-dire en fait, l'idée d'avoir un point de vue hétérodoxe aujourd'hui pour repenser et refonder une politique du capital. Alors on va pas être les Soros, c'est parce que notre objectif c'est pas de devenir les plus riches du monde, mais d'essayer d'avoir une rationalité qui permette évidemment un capital socialisé, qui permette un développement de valeur, un développement de richesse. Parce que Soros et Buffett, eux, d'une certaine manière, ils n'ont pas perdu beaucoup de fric pendant la crise économique, parce que d'une certaine façon, ce ne sont pas des nigauds. Ce ne sont pas des nigauds parce qu'il y en a un qui fait de la philosophie, d'ailleurs, c'est Soros, c'est marrant, il s'était pris pour Kant à un certain moment, c'est assez drôle. Et puis Buffett, en fait, on l'appelle le sage de l'Oklahoma, c'est un type, en fait, qui a acheté une maison en 56, en 1956, et qui est une vieille bagnole, et qui, d'une certaine manière, ne vit absolument pas comme un milliardaire. Donc, en fait, c'est vraiment un type tout à fait étrange, assez singulier. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus, et je reviens sur le problème. Alors, c'est quoi notre problème? C'est-à-dire, si je récapitule, le problème, c'est le rôle de la finance dans l'économie de la contribution. Hein, c'est vraiment le vrai problème. Alors, il faut avoir une position avant de décliner après des principes, des principes directeurs. La position, moi, je dirais, c'est faire du marché régulé, on pourrait même dire d'une certaine manière des nouvelles règles du marché qu'il va falloir inventer, contrepoint à l'habitude, alors contrepoint au sens de levier dont Tan parlait tout à l'heure, hein, tu as parlé de levier, donc faire du marché régulé, donc inventer une nouvelle règle, innover une nouvelle règle, inventer une nouvelle règle, le contrepoint au levier à l'habitus non démocratique du politique. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait renverser la vapeur en disant d'une certaine façon que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la résultante d'une politique non démocratique qui, d'une certaine manière, a permis la dérégulation des marchés, qui nous amène évidemment vers une course échevelée du capital pour lui-même, dont les effets sont la crise que j'ai citée tout à l'heure. Donc ça veut dire que notre position elle est un peu paradoxale, et c'est à partir de cette position paradoxale que, d'une certaine manière, on peut essayer de lier deux choses qui me semblent très très importantes, c'est-à-dire... deux choses qui sont très importantes, mais avant je voudrais revenir sur le problème de la position, bon je l'ai dite, hein, donc, mais je voudrais préciser un petit peu. Moi mon programme en fait c'est quoi? C'est l'idée, c'est est-ce qu'il est, il y a une question qui est simple, est-ce qu'il est possible de définir des ratios financiers, est-ce qu'il est possible de définir des ratios financiers de l'économie de la contribution? C'est ça qui m'intéresse. Parce que si on n'est pas capable de définir des ratios financiers de l'économie de la contribution, on va discuter avec les altermondialistes, on ira à Davos si on est, dans l'autre camp, mais on ne fera pas avancer beaucoup de schmilblick. Donc ça veut dire que l'objectif, évidemment, ça va passer par des qualités de compte, qu'est-ce qu'on calcule, qu'est-ce qu'on comptabilise, qu'est-ce qu'on prend en considération. Alors, à mon avis, sans rentrer trop dans les détails sur le problème des ratios, parce que ce n'est pas aujourd'hui que je vais en parler, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de voir déjà que Buffett, dont je parlais tout à l'heure, et Soros, eux, ils ont inventé leur ratio. Ils ont inventé leurs ratios, et c'est sur la base des ratios qui ne sont pas du tout les théories de l'efficience du marché qu'ils ont basé leur succès, leur investissement a fonctionné. Alors, pour nous, ce qui est important, deux points. Donc, faire de la bourse un lieu de contribution, ce qui est un peu culotté, évidemment, hein, parce que vous pouvez me dire, bon, on pourrait, comme Zola, penser que ce qui serait intéressant, c'est de foutre le feu à la bourse, pas du tout. À mon avis, faire de la bourse un lieu de contribution, face à une démocratisation, face à une démocratie politique qui, d'une certaine manière, doit se rendre perfectible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que le système démocratique n'est pas, démocratique, parce que le système politique n'est pas démocratique, que la bourse, en fait, aujourd'hui, n'est pas un lieu de contribution. Ça me semble important. Ce qui veut dire que je ne vais pas développer, mais ce que disait Bernard tout à l'heure sur le contrat social, à mon avis, je le fais pleinement bien, c'est-à-dire qu'on est obligé de relier la question du capital financier, dont je parlais tout à l'heure, évidemment avec la dimension politique. Mais sans en pointant simplement ce point-là, faire de la bourse un lieu de la contribution face à une, face, disons, à une démocratie qui, aujourd'hui, en Occident, évidemment, a besoin eh bien, de se rendre perfectible, pour reprendre une perfectible, c'est-à-dire, en fait, de ne pas être dirigée par l'économique, parce que c'est quand même ça, comment dire, le destin de comment dire, du politique depuis, disons, allez, 83, si on prend une date récente, hein, l'échec de la social-démocratie. Pour la France, mais on pourrait prendre d'autres marqueurs. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut ? En fait, il faut au moins deux choses. Tenir deux éléments. Premier élément, la monnaie. Et deuxième élément, l'investissement. Ça veut dire que si on ne tient pas la monnaie et l'investissement, on n'a pas de politique du capital. Là, on n'a pas de politique du capital, c'est-à-dire, en fait, on est incapable d'envisager la place et le rôle de la finance dans l'économie de la contribution. Alors, la monnaie, évidemment, comme on dit, Arnaud a dit les choses très très justes en relisant Foucault sur le principe de souveraineté. C'est-à-dire qu'évidemment, le principe de souveraineté, c'est ce qui fonde le politique. Et évidemment, la crise du politique aujourd'hui, c'est aussi quelque part une crise de la monnaie, puisque la monnaie n'appartient plus au politique, puisqu'en fait, on a les banques centrales. Donc ça, c'est un point marqueur fondamental qui montre évidemment que nous sommes en déficit du politique au niveau européen. Ce qui veut dire que c'est très très grave. Ça veut dire que c'est pas très grave. Ça veut dire qu'on peut toujours rêver à une fédération. Mais s'il n'y a pas, une souveraineté dans la monaine, hein, Trichet, il est élu par personne, eh bien on va avoir des vrais problèmes. Et donc non seulement on aura des vrais problèmes, mais ça veut dire qu'on n'aura pas de politique de finance qui ira du côté de la contribution. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a des marqueurs très 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 simples hein, qui nous annoncent en fait des destins en fonction des orientations qui sont prises. Deuxième point très important, donc ça c'est la monnaie, relation monnaie-souveraineté. Deuxième point, c'est le problème de l'investissement. Le problème de l'investissement, c'est très très important, puisqu'en fait, c'est le problème de l'anticipation, c'est le problème du temps. C'est Keynes qui en avait parlé d'une certaine manière, de manière géniale, disons, pour la sortie de la crise de 29. Et aujourd'hui, évidemment, où sont les petits Keynes moi, je n'ai pas du tout la prétention d'être Keynes, mais en fait, ce qui est important, c'est que certains économistes ont démissionné. Mais qu'en fait, il pourrait le faire, et que là, il manque d'audace, il y a une audace politique, je parle en particulier d'Orléans tout à l'heure, je dis ça de manière très gentille, mais dans le texte que tu cites, en fait, il parle d'incompétence, hein, tu sais, le titre de Libération. Mais quand vous traitez quelqu'un d'incompétent, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la réciproque, vous pensez ce que c'est que la compétence. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes capable de proposer un programme. Et Orléans, il a une analyse très très fine, mais on n'a pas les tenants et les aboutissants de son programme qui nous permettrait de sortir de l'impasse. Je ne dis pas ça contre Orléans, mais il fait partie de ceux qui sont évidemment, qui marquent des choses très importantes, mais qui sont très prudents, parce que je ne dis pas ça contre Orléans à Neuvième, il faut replacer cette position. Mais la séparation des marchés, elle est importante, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a aussi, les conditions de l'audace. C'est les conditions de la prise de risque. Ça veut dire que par rapport à votre communauté universitaire, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, tout simplement, parce que, évidemment, il y a des canons, et donc, les économistes, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se féliciter du mouvement des économistes atterrés, et que, évidemment, le scandale est tellement énorme que, on est obligé de sortir de l'université, et les choses sont très positives. Bon, ceci dit, je ferme la parenthèse sur Orléans, parce que c'est pas le sujet essentiel, et en même temps, son travail est initié, c'est un problème très, très, un travail très important, et sur la monnaie en particulier, et avec, la théorie derrière du désir mimétique de Girard, etc. Enfin bon, c'est un truc très intéressant. Donc le problème pour moi, enfin pour nous, c'est le problème de la contribution, c'est qu'est-ce que c'est que l'investissement, puisque ça relève évidemment de l'anticipation, je reviens, l'anticipation, le temps, évidemment, l'anticipation, c'est-à-dire en fait prévoir ce qui va se passer alors que c'est pas encore là, hein, donc évidemment, on est dans une sorte de virtualisation. Deuxième chose, évidemment, sur l'investissement, on est dans la question industrielle. C'est-à-dire on est directement dans la question de politique industrielle. Et donc comment aujourd'hui on aide des politiques industrielles, évidemment, voilà la question. Et ça, on ne sait pas faire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pôles de compétitivité posent la question d'innovation, et l'innovation bottom-up, on ne sait pas faire. On fait top-down. Donc ça veut dire l'innovation ascendante, on ne sait pas encore faire. C'est un concept, qui se développe aux États-Unis, un concept qui s'appelle l'open innovation, qui est un concept qui est important. D'ailleurs, il y a des amis économistes qui, au mois de mars, font un colloque là-dessus, sur l'open innovation. Évidemment, la question de l'innovation est centrale, puisque c'est le verrou, évidemment, à partir duquel la notion d'investissement peut être mise en place. Donc la politique industrielle. L'Europe aujourd'hui n'a pas de politique industrielle. Nous avons encore que des politiques industrielles nationales, alors même que l'État-nation, tout le monde nous dit que ça n'existe plus. Et la skisse dans laquelle on est, c'est un non-sens, quoi. Je veux dire, il y a véritablement, de quoi, être un peu schizophrénique. Donc ça pose cet investissement, un troisième point qui est fondamental, qui est le crédit sociétal. Je dis crédit sociétal parce qu'il existe, en fait, dans l'histoire, si vous regardez un petit peu, le crédit social. Ça s'est mal passé pour le crédit social. Si vous regardez sur Internet, sur Wiki, les fondateurs du crédit social, ils ont un petit peu mal tourné au tournant du siècle. Mais en tous les cas, le crédit sociétal, il faut l'inventer. Ça veut dire que dans le crédit sociétal, eh bien là, on va retomber sur le premier niveau dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait la finance contributive avec évidemment des monnaies, de la microfinance, c'est sûr, la microfinance, des rôles des territoires, pourquoi pas, il existait dans le passé, il existe encore, des crédits municipaux, et c'était souvent synonyme d'ailleurs de la charité, et donc un crédit municipal qui devient évidemment tenseur, point de finance d'amorçage d'une richesse territorialisée ou située, évidemment, voilà des choses très très importantes qui intéressent les présidents de métropole, qui intéressent les présidents de région. On a vu, sur des cas sur lesquels je ne vais pas revenir, mais de délocalisation industrielle, des présidents de région mettent de l'argent pour essayer de retenir, évidemment, l'activité innovante et évidemment la territorialisation sur des voitures en particulier ou d'autres cas, mais je pourrais en citer d'autres. Donc voilà, 3-4 points sur ça. Alors, dernier point, c'est mon dernier point, après j'arrête. L'idée de Soros, parce que j'aime bien Soros, en fait, quelque part, qui est un arnaqueur, hein, parce qu'il joue sur il fait du court terme. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre 2 milliards contre la Banque d'Angleterre. Mais en fait, la Banque d'Angleterre joue la City, donc il joue aussi, lui, en fait, il joue sa partie, quoi. Donc on ne peut pas lui en vouloir de jouer sa partie, même si je n'ai pas envie de jouer la même partie que lui, c'est clair. Lui, il nous dit quoi? Des choses assez évidentes. Pas de croyance dans des règles objectives. Donc en fait, l'idée, il y a une subjectivité. Donc là, c'est la question du désir qui est posée. Tout à l'heure, quelqu'un a commencé la séance en disant « Mais où est la psychologie là-dedans ?» Oui, il y a une psychologie économique, il y a une psychologie, évidemment, de la finance. Il n'y a pas de règle objectif. Et ce rose dit « Entre la perception et le réel, en fait, il y a moi. » C'est-à-dire, il y a ma réflexivité. Ce qu'il dit, il n'est pas narcissique, il dit « Il y a ma réflexivité. » Il dit deuxième chose, pas de culte des chiffres. Il faut détecter les changements. Pas de culte des chiffres, détecter les changements. Il dit aussi une chose très très intéressante, pas d'arithmétisation du réel. En fait, l'arithmétisation du réel, c'est de croire qu'il y a une martingale, hein, comme dans le film Pic, qui va nous apporter évidemment la bonne solution et la prédictibilité assurée. Les chaînes de Markov, etc., etc. Non, ça n'existe pas. Il met en place un espace topologique. Et donc, il y a un raisonnement topologique, et donc voilà, par rapport à l'arithmétisation du réel. Dernier point, et c'est intéressant, de Soros, il nous dit pas de rabattement des études sur un scénario unique. Donc l'idée de ma grand-mère, hein, pas tous les œufs dans le même panier, et donc, évidemment pas de rabattement de toutes les études sur un scénario unique. Donc ça, c'est les principes fondamentaux de Soros, c'est des lignes de conduite, c'est des guides, hein, dont tu parlais tout à l'heure. Nous, à mon avis, on doit avoir des guides, qui ne sont pas ceux de Soros, évidemment, mais on doit avoir des guides pour imposer, évidemment, du rôle de la finance dans l'économie de la contribution. Je vais pas terminer sur Buffett, mais en fait, lui, ce qui est intéressant, alors lui, à la différence de Soros, il ne joue pas sur les marchés à terme. Il faudrait voir le concept de marché à terme, qui est un concept très, très, très bizarre, mais bon, je pense que techniquement, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais lui, il ne joue pas sur les marchés à terme, il joue sur le long terme. Hein, ça renvoie à ce que disait Bernard sur le problème du temps de l'agenda. Et lui, sa technique, c'est quoi? C'est d'étudier le management. C'est d'étudier en fait les courbes technologiques qui permettent en fait de voir que certains types de firmes, on peut pouvoir les racheter parce qu'ils ont un potentiel ils sont bien managés, il y a un potentiel de développement d'une technologie qui va porter ses fruits, donc il anticipe. Et d'une certaine manière, c'est un penseur d'innovation du fait, parce que c'est en fait sur la base de l'observation d'une innovation qui va se développer qu'il parie. Et donc là, on a quelqu'un, disons, d'intelligent, en fait, qui n'est pas du tout dans la logique, évidemment, du type qui est devant ses écrans dans la salle de marché. Et donc, pour conclure, définitivement cette fois-ci, évidemment, tout ça, ça pose la question incontournable aujourd'hui, donc en fait, de la politique du capital, de la sociabilité du capital ou de la socialisation ou encore de... du capital sociétal, pourquoi pas, hein, en fait, avec des formes, évidemment, de politique, de propriété évoluée, hein, dont parlait Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire, évidemment, qui iront plus loin, évidemment, que Proudhon, parce qu'il ne s'agit pas de revenir à Proudhon contre Marx, mais évidemment, parce que, en fait, tout le modèle du crédit coopératif, c'est du Proudhon, hein, c'est déjà, et donc, il y a des misères de la philosophie, philosophie de la misère, et ce que dit Marx sur Proudhon, il faut lire Marx aussi pour ne pas refaire Proudhon en disant, ça y est, on a trouvé la martingale, quoi. Donc, ça veut dire que l'idée, pour conclure, c'est l'idée de la dette. Ça, c'est très important. L'idée de la dette et l'idée de l'argent et d'avoir une politique de l'argent. Parce que, en fait, avoir une politique de l'argent, ça veut dire évidemment que on est capable d'effacer l'ardoise. Alors, oui ou non, pas toute l'ardoise, une partie de l'ardoise, voilà des questions fondamentales. On est capable, en fait, de jouer sur la variable des taux d'intérêt. Petit taux d'intérêt, très petit taux d'intérêt, variabilité de taux d'intérêt en fonction des gens. Par exemple, là, ce sont les banques qui prêtent, qui ont un prix à 1,2 à 1,5%. Mais pourquoi pas, en fait, moduler en fonction des emprunteurs des taux d'escompte variables, la question de la dette et du remboursement est une question centrale sur laquelle on pourra évidemment pas faire une impasse. Et par ailleurs, évidemment, alors là c'est un peu l'autre question, mais là j'en parlerai pas du tout aujourd'hui, qui est la question de la fiscalité. Mais c'est, à mon avis, la question de la fiscalité est une question à part. C'est pas la question de la finance telle qu'on a essayé de la traiter aujourd'hui. Merci d'avoir été un petit peu long, mais bon.
Je ne suis pas économiste, alors je vais poser les problèmes d'une façon moins technique que... Fernand Comte, oui. Je vais poser les problèmes d'une façon moins technique que mon prédécesseur. Je veux dire que... Il y a une idée qui me vient toujours en esprit, c'est le problème du débord. Là, on est tous d'accord pour dire que l'économie financière a de moins en moins, au moins à 95% ou 90%, je ne sais pas les chiffres, de rapport, de lien avec l'économie réelle. C'est l'économie financière a débordé sur l'économie réelle. Tout à l'heure, Bernard disait l'argent mesure la propriété. Je crois que l'argent a débordé aussi sur la propriété. Et la propriété elle-même a débordé sur l'usage des choses. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous d'accord pour dire qu'on a besoin d'Europe. Mais l'Europe n'existe pas économiquement. On est tous d'accord là-dessus pour dire que l'Europe n'existe pas. Alors il y a un mot, il y a des institutions qui débordent largement la réalité aussi. Et je trouve que, alors c'est ce qui m'interroge continuellement, je n'ai pas de solution, hein, simplement pour dire que c'est ces débordements qu'il faudrait arrêter de faire dans l'économie de la contribution, c'est-à-dire s'occuper des gens et non pas des choses, s'occuper de l'usage des choses et non pas de la propriété. La propriété, c'est un papier, c'est un titre. Vous voyez ce que je veux dire?
Merci Fernand. Est-ce que Christian, tu veux dire un mot?
Oui. On va essayer de suivre les propos là.
qui adresse quelques propositions qui sont plus pour moi des tacles vis-à-vis de cette dynamique qui est en perte de vitesse, cette économie numérique. Et un autre volet qui serait plus proposition au sens construction pour créer les conditions qui ont été évoquées, les conditions de possibilité que l'économie a apporté. Donc, ma première remarque est la suivante. Dans l'agenda distinguer deux types de propositions. J'ai rappelé au début de cet agenda qu'il y a, je pense que c'est très important ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, le fait d'expliquer qu'il y a une dynamique qui n'est plus là, et en même temps qu'il y a une réalité qui est omniprésente. Ça va porter un peu toute notre discussion et notre proposition, donc je me demande si dans la partie agenda, il fallait vraiment essayer de distinguer les deux types de propositions, les propositions qui tacleraient l'économie consumériste et les autres qui construiraient les conditions de l'économie de contribution. Ensuite, sur la question de la dette, bon, j'avais fait quelques remarques sur la liste de discussions. Tout à l'heure, avait évoqué le cas de l'Islande. Je pense que l'Islande a fait ce choix-là de dire, bon, ben, on ne rembourse pas. Je pense qui avait évoqué l'Islande tout à l'heure, je n'ai pas retenu les noms des interlocuteurs, mais si celui qui l'a évoqué peut nous faire une petite synthèse après la réunion, bien entendu, pour qu'on puisse avoir une vision de ce qui s'est fait sur l'Islande, toute réserve par ailleurs, hein, comme l'a souligné ensuite Franck, donc c'est quelques dizaines de milliers d'habitants, c'est quand même très bien parti. La question de la dette est également importante parce que, et là j'ai quelques interrogations qui s'adresseraient peut-être à Bernard, mais à tous. Bernard disait que la dynamique n'était plus du côté de l'économie consumériste. Il m'arrive d'avoir quelques doutes. Notamment quand je regarde les problématiques d'agriculture et d'écologie au travers de ce qui se passe via les fameuses chambres de compensation qui commencent à rejouer à une échelle encore plus grande l'emprise de cette finance de prédation en finalement en utilisant le levier de la dette pour aller voir des pays notamment qui sont plus que sous l'eau pour racheter soit des ressources, soit des terrains, soit des crédits en carbone pour cautionner toute une industrie consumériste qui continue à se développer sur d'autres continents en Occident. Là, je pense qu'il y a une articulation avec le problématique de l'agriculture pour laquelle je suis plutôt sensible, qui se rejoue avec une puissance. Voilà, c'est le sujet qui me fait dire que parfois la dynamique de l'économie de la prédation, de la finance de la prédation et du consumérisme, elle est parfois très. J'ai l'impression parfois qu'elle est très importante. La manière peut-être de clarifier la situation, ce serait de revenir sur ce qui a été dit au début, je crois que c'était par Adrien, la relation entre l'économie, on va dire la partie économie psychique, liminale et l'économie telle qu'on en a parlé jusqu'à présent, parce que je crois que dans les esprits des habitants, effectivement, la dynamique, elle n'est plus, disons qu'il y a une perte de crédit hein, de la part des habitants et des citoyens de cette dynamique économique. Mais c'est au niveau psychologique d'abord que ça commence à. La situation qu'évoquait Bernard, je dirais qu'au niveau psychologique, effectivement, il n'y a plus de la dynamique. Mais dans la réalité, elle est toujours cette dynamique, notamment autour des problématiques écologiques, environnementales, les chambres de compensation qui finalement utilisent la dette pour relancer encore plus la machine, et sur des terrains qui sont très très peu médiatisés, contrairement à tous les excès de la financiarisation des subprimes dont on parle beaucoup depuis 3 ans. Sur le propos qu'a eu Franck, il a un débit, bon, j'arrive pas à suivre, bon, en plus les conditions sont pas optimales d'écoute. J'ai pas réussi à suivre, mais j'aurais certainement pas de remarques pertinentes là-dessus. Voilà les deux ou trois remarques que je vais faire à ce sujet. Je crois que
vous pouvez donner la parole. Bastien, tu veux intervenir?
Je peux parler,
tu vas
bien?
Bon, alors...
Bon, oui. Je ne sais pas si vous
m'entendez.
Il n'y a personne d'autre qui va parler,
hein?
Ok. Donc, bon, moi, je voulais réagir à ce que j'aime bien Christian, mais d'abord à ce que dit Franck. Bon, d'abord pour souligner qu'il a apporté à toi un point d'éclaircissement très précieux. Distinguons clairement la finance, l'économie financière, dans le contexte de l'économie de la solution, de la finance compétitive. Ce sont deux sujets distincts, on ne peut pas séparer, et qu'il faut absolument distinguer. Et pour moi, la priorité des finances, c'est bien l'économie financière dans une économie de la compétition. Enfin, l'économie financière, mais. Disons la question des finances dans l'économie de la construction et pas la finance contributive. La finance contributive, c'est une question évidemment fondamentale, mais je pense que ce n'est pas la première question. C'est mon point de vue, et évidemment, je ne peux pas être d'accord du tout avec ça. Hein, je le comprendrai très bien. Mais en tout cas, c'est pour que mon point de vue soit clair sur ce point. Deuxièmement, et pour préciser ce point de vue, en délire, en reprenant ce que vient de dire Christian, à savoir à propos de l'économie du tribunal, il s'est référé à des propos d'Adrien, Pierrot, mais l'économie du tribunal, qui est, je me permets de le rappeler, le point de départ de la tradition, c'est-à-dire que notre premier manifeste de 2005, c'est de dire qu'on est en train de détruire l'économie du tribunal sous prétexte de l'exploiter au service de la consommation. Et ça ne va pas dire ça ne peut conduire qu'à une crise catastrophique. L'économie du tribunal, c'est aussi la question de l'investissement. Et pour moi, la théorie weberienne, par exemple, de l'entrepreneur capitaliste, du proto-capitaliste et du capitaliste qui entreprend, c'est une théorie de l'investissement au sens de l'économie du tribunal. Même si Weber, évidemment, ne se réfère ni à Freud, ni à cette question, ce qu'il fait en revanche, c'est qu'il met au cœur de l'économie capitaliste, d'abord une question de la motivation et donc d'une économie du sujet, d'une subjectivité. Et ça, c'est absolument capital. Ce que nous avons essayé de proposer à Saint-Denis depuis 6 ans, où je tiens quand même à rappeler aussi, c'est que ça paraît fondamental pour ce groupe économie de la contribution, que ce que nous défendons, c'est une économie industrielle. Je tiens à le rappeler parce que c'est notre point de départ et il faut, si c'est pas clair, si ça pose problème à des participants qui le disent, mais en tout cas, c'est notre point de départ et pour moi, il est hors de question qu'on en change. Autrement dit, ce que nous attendons de notre gestion, c'est une économie industrielle. C'est ce que rappelait tout à l'heure Franck Cormeret. Nous pensons que dans l'économie contemporaine, qui s'est financiarisée d'une manière totalement absurde et autodestructrice, un processus se produit de désinvestissement, c'est-à-dire de destruction de l'investissement. Et ça, c'est une question à la fois financière, politique, industrielle et d'économie médiévale. Et on ne peut pas séparer ces quatre dimensions dans notre société contemporaine. C'est absolument impossible. Ce qui veut dire aussi que si on veut réfléchir à ces questions, on ne peut pas penser les problèmes de finance indépendamment d'un soutien de la fiscalité, je pense que ce n'est pas la même chose, il y a sûrement raison, et puis j'aimerais qu'on y revienne une autre fois, on en reparlera avec Carlo et Jean-Marie, mais en tout cas, on peut passer par cela, c'est la question de la façon de penser le travail. C'est-à-dire quand même la grande opposition du 19e siècle qui est à l'origine de la fiscalité du capital, c'est l'opposition capital-travail. Et c'est une opposition, c'est évidemment très simplement une opposition, c'est une composition. Et si l'on veut tenir un discours sur la finance, il faut tenir un discours sur le travail. Le travail, donnons-nous à son pays, enfin, je crois qu'on est d'accord là-dessus, hein, parce que ça n'est pas l'emploi. Le travail, c'est l'emploi. Quand quelqu'un travaille, il n'est pas seulement employé, il s'investit dans son travail. Il n'y a pas de travail sans investissement dans son travail. Maintenant, il y a un moment où l'investissement dans son travail peut conduire à un investissement financier pour nous aider à construire son outil de travail, à construire l'objet de son travail, et à ce qu'on appelle, dans un langage classique, entreprendre. Et nous disons, nous, à son esprit, qu'aujourd'hui, il est possible d'entreprendre sur des modalités qui ne sont pas l'entrepreneur de soi-même, que le MEDEF veut nous vendre, mais qu'on peut entreprendre collectivement dans une économie contributive. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un des chapitres de Réinventer le monde, avec ce titre, c'était entreprendre autrement. Nous ne sommes pas du tout contre le discours entrepreneurial et l'entreprise, mais nous pensons en revanche, en tout cas dans ce livre-là, nous pensions qu'il fallait rendre possible des modalités d'investissement qui ne sont pas forcément un entrepreneuriat capitaliste classique, et peut-être même pas capitaliste du tout, je dirais que je me fous pas mal de savoir si c'est capitaliste ou pas d'une certaine manière, mais en revanche qu'il fallait reconstruire l'investissement. Et ça, évidemment, ça passe à la fois par une économie minimale, c'est-à-dire par une organisation de la culture générale, parce que l'économie minimale, au sens le plus large, c'est la culture, c'est les modes de vie, c'est ce que tout à l'heure, pas les modes de vie, les façons de vivre, etc. Y compris au sens où Buffett vit dans une bagnole pourrie, c'est une façon de dire. Et j'appellerais ça aujourd'hui maintenant la culture. Ça passe par la finance, ça passe par la fiscalité de la taxation, ça passe par l'éducation, si on dit culture, en fait, il faut dire d'abord l'éducation, et ça passe par les lois du travail, le marché du travail, le droit social, les façons d'organiser le travail, l'organisation du travail, etc., etc. À propos de la question que posait Christian à l'instant sur la dynamique, enfin, bon, il disait, moi je crois qu'il y a encore sur les centres de compensation, etc., bon, que dans le domaine agricole, il y a encore des dynamiques spéculatives dans la question, qui sont efficientes. Et je dirais qu'elles le sont plus que jamais, les efficientes, les dynamiques spéculatives. Il y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment, comment les bulles spéculatives peuvent se reconstituer, comment les escrocs qui sont apparus au lieu du monde entier comme des escrocs sont redevenus la légalité en deux temps, trois mouvements, par une espèce de lâcheté du monde économique et des économistes patentés et orthodoxes absolument incroyables. Bon. Absolument incroyable. Quoi qu'il en soit, moi, il y a une dynamique là, au sens où, bah oui, il y a des allers-retours, comme on dit à la bourse, il y a des martingales, il y a des gens qui gagnent encore énormément de fric, qui sont des voleurs pour moi, mais moi je dis que c'est pas une dynamique, parce que ça n'est pas soutenable. Pour moi, une dynamique, une véritable dynamique économique, c'est une dynamique soutenable ou durable. Donc, la question, c'est la durabilité de l'économie dans laquelle nous vivons. Et ça, tout le monde sait que ce n'est pas soutenable. Tout le monde sait que ces modèles sont des modèles spéculatifs qui ne rendent absolument pas du tout crédible la résolution des problèmes de la fin dans le monde, la protection des stocks d'eau, enfin d'une eau potable, et d'une eau qui permettrait aussi de, non pas de faire de l'irrigation comme aux États-Unis, mais tout simplement d'avoir une agriculture vivrière locale correcte. Tout le monde fait ça. Donc, ce ne sont pas des dynamiques pour moi. Ce sont des dynamiques à très court terme, mais ce ne sont pas des dynamiques à long terme. Donc, je réponds à Christian. Peut-être qu'il aura des choses à me répondre à son tour, mais je pense que ça, il faut être extrêmement clair là-dessus, sur ce qu'on n'entend pas dynamique. Dynamique veut dire une dynamique qui redonne du long terme, qui redonne de l'avenir, qui redonne le sentiment que l'investissement vaut le coup, que la vie vaut le coup, vécu, etc., etc. Après, ce que disait tout à l'heure Franck à propos du lien entre la monnaie et la souveraineté, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand il expliquait que les banques centrales, que les politiques monétaires ont été faites au pouvoir politique et sont passées dans des sphères autonomisées par rapport à la démocratie, c'est le cœur du sujet. Et là-dessus, il est absolument essentiel que nous, enfin les économistes, qui veulent intervenir à la campagne, sont fondamentales. Évidemment, elle pose des problèmes. Qu'est-ce qu'elle veut dire à une rationalisation des modèles, etc. Ce n'est pas du tout mon cas, et je crois à savoir que ce n'est pas du tout le cas de France, ce n'est pas du tout le cas d'Arnaud. C'est à court terme, parce que par exemple, si nous disions qu'il faudrait constituer une banque centrale européenne politique, ça pose le problème de l'Europe. Si nous ne voulons pas nous rabattre, en tout cas c'est mon cas, au niveau national, auquel je crois que l'échelle économique n'est plus pertinente en effet. Que ça nous plaise ou pas, je crois que c'est le cas. Ce qui ne veut pas dire que l'économie territorialisée et une re-territorialisation ne soit pas possible. C'est une erreur absolue d'opposer le fait de créer des échelles continentales avec le fait de soutenir des économies locales. M. Franck connaît très très bien ce sujet, nous y travaillons ensemble à Nantes et maintenant également à la question forêt. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que il faut que si nous voulons poser le problème d'une finance de la contribution, et pas simplement d'une finance contributive, au service donc d'une économie, d'une économie financière au service de l'économie de la contribution, il faut en effet que nous clarifions nos positions, et pas éternellement dans des débats qui repartent à chaque fois à zéro, parce que ça, on n'a pas de temps à perdre. Il y a le feu là, et il faut vraiment être efficient, plus efficient que le capital, plus efficient que les spéculateurs. Il faut que nous posions ces problèmes-là clairement. Et moi, je suggère maintenant que nous constituions un groupe de travail où nous disons on va se réunir pendant 2-3 jours avec des gens qui connaissent le sujet, où on va poser le problème, en effet, de qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport entre la monnaie et la souveraineté démocratique. Et c'est un certain nombre de sujets de ce type qui sont des sujets absolument élémentaires du problème de la finance. Et si on ne commence pas par les poser, on ne peut pas aller très très loin. Ça ne veut pas dire, que nous ne devons pas apporter des réponses. Parce que, par exemple, sur ce sujet, le lien entre monnaie et souveraineté, ce que j'ai dit personnellement, je n'en ai pas. Mais ça veut dire en revanche qu'il faut que nous sachions poser les questions. Ce n'est pas du tout la même chose. Et la première question qui se pose, c'est de savoir poser correctement les questions. D'abord, de les poser là où elles sont, et de dire, quand elles sont posées à mauvaise gestion, de dire, mais ce n'est pas une bonne question à ce moment-là, ça ne se pose pas comme ça. Et ça, je pense qu'il faut qu'on fasse un état des lieux par rapport à ça assez précis. D'autre part, tout à l'heure, Franck a lancé une proposition qui est extrêmement audacieuse et extrêmement intéressante. La cause attributive. C'est un sujet qui me semble extrêmement important. En même temps, sur lequel nous n'avons pas suffisamment discuté, à mon avis. Et je crois que c'est un sujet dont nous avions accueilli en 2006, si je me souviens bien, Jean-Luc Gréau, qui proposait, viré par le MEDEF, spécialiste d'économie financière du MEDEF, viré par le MEDEF, qui proposait la fermeture des bourses, l'abandon du système des bourses. Je pense qu'on prend une position totalement diamétralement opposée, une réinvention de la bourse comme une bourse contributive. Je trouve ça extrêmement intéressant. Maintenant, si je m'entends. C'est pour dire sur notre agenda, compte tenu de l'état d'urgence, vraiment à aller extrêmement vite. Et compte tenu de la complexité du sujet, moi ce que je propose, c'est que nous déduisons des biens à partir de la situation des propositions. Il parlait de propositions pour limiter la casse, c'est comme ça que j'ai noté, c'est-à-dire que nous allons faire des problèmes, non pas dans une économie contributive, mais à l'intérieur du système consumériste lui-même. Il faut qu'aujourd'hui, par exemple, nous interdisions un certain nombre de choses, et c'est dans ce contexte-là, par exemple, que les propositions de la Ronde d'Orléans, de séparation entre les banques, etc., s'inscrivent. Et là-dessus, il faut que nous prenions effectivement maintenant des positions très claires, en tant que c'est fondamental de prendre des positions là-dessus. Il faut, moi je crois, qu'il faut que nous insistions sur la position que nous avons au sein de l'OCDE, qui je crois est assez. Qui intéresse beaucoup les gens dont je parlais tout à l'heure, aux Orions, Lordons, etc., et qui est assez originale, c'est que nous posons le problème de l'investissement en termes de libido. C'est-à-dire que nous ne séparons pas le problème de l'investissement financier de l'investissement personnel, je dirais, dans la tâche, vraiment dans le travail, etc. Et par rapport à cela, nous tenions un discours sur, je dirais, si on est un capitaliste, si on est un économiste du capitalisme étatique, dans tous les cas, on ne peut pas retourner, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas admettre une destruction d'investissement telle qu'elle soit érodée par la spéculation. Donc il y a
pas besoin d'être pour l'économie de la pollution. Il suffit d'être un économiste réaliste par rapport à cette économie, y compris consumériste. Et là, comme ça peut dire, consumériste, en tant qu'il a développé une spéculativité, une spéculation de caractère substantiel qui va dans un point de terre, et il faut arrêter cette folie-là. Ça, je crois qu'il y a énormément de gens dans le sens, parce que c'est pas lecteurs de l'économie classique qui sont devenus extrêmement sensibles à ce sujet. Il faut se les aligner. Il faut leur poser des fêtes pour faire un pas de quoi. Et ça, je dirais, c'est des propositions, deuxième niveau de proposition, c'est ce que disait Christian.
Bernard, là, au dernier moment, on ne t'entendait plus, ça devenait de plus en plus assuré, c'est dommage.
De proposition pour l'avenir. De proposition pour l'avenir, il faut être...
Je comprends pas, c'est quoi ?
Pour l'avenir. Dans un agenda. Il y en a pour lesquels, je crois que nous sommes en mesure aujourd'hui de faire des propositions absolument... C'est du passé, cette histoire, c'est fini. C'est plus du tout le problème. Les éléments ont énormément mûri et la crise de 2008 a eu lieu, taxe-vine, c'est plus de 10 ans, bien avant même, 15 ans avant la crise de 2008. Par rapport à ça, nous avons des propositions très concrètes à faire. Et ces propositions très concrètes, c'est par exemple, socialisons dans le droit du travail le modèle du logiciel libre. Reprenons et socialisons dans le droit du travail le modèle, ça c'était une proposition que faisait Arnaud il y a très longtemps, le modèle des intermittents du spectacle. Aujourd'hui, notre sujet, c'est par rapport à la finance. Eh bien, il faut que nous fassions des propositions extrêmement concrètes, et je dis bien pour une économie de la contribution industrielle et pas à la marge. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour aller voir ce qui se passe en Islande, mais ce n'est pas le sujet de lui. Qui en Islande, des mesures qui étaient prises en disant on arrête de rembourser, etc., etc., c'est très intéressant. Mais le problème n'est pas de cette nature aujourd'hui. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ça n'est pas cela. Le troisième point, il est essentiel d'ouvrir des propositions sur des sujets de débat sur lesquels nous n'avons pas forcément d'élance, mais que nous avons identifiés comme des questions fondamentales. Typiquement, par exemple, pour moi, la bourse contributive. C'est extrêmement intéressant. Ou encore le crédit sociétal ou social, tel qu'on parlait tout à l'heure, Franck. Il y a, par ailleurs, des propositions très concrètes que fait TAM, qui sont liées à des expériences, qui sont plutôt du côté de l'innovation sociale, l'entendez. Il faut l'inscrire dans l'agenda. Mais je pense que si nous ne hiérarchisons pas ces choses, si nous avons absolument tous les niveaux, les échelles territoriales, les échelles de temps, etc., nous ne serons jamais crédibles. Il faut aujourd'hui, c'est une question de responsabilité civique, il faut que nous fassions des propositions véritablement crédibles, par rapport à laquelle d'ailleurs il est essentiel que nous tournions sur ce que j'appellerais les figures historiques qui sont des modèles à l'origine qui inspirent ce que nous appelons mis l'économie de la contribution. Le logiciel libre étant pour moi et pour je crois nous tous à Facebook le modèle numéro un, mais il y en a évidemment d'autres. Il y a évidemment ce qu'on appelle le modèle coopératif, au sens où Proudhon, le 19e siècle, etc., on fait des propositions, donc c'est un modèle qui a une très longue histoire. Il y a le modèle de l'économie sociale et solidaire, avec lequel nous avons en ce moment d'ailleurs quelques échanges, qui est pour moi un modèle très intéressant, où il y a beaucoup de sensibilisation à ce que nous disons, où nous sommes très inspirés nous-mêmes par ces modèles, mais qui en général est un modèle de ce qu'on appelle le tiers secteur, c'est-à-dire un modèle, je dirais, marginal par rapport à l'économie. Et ça, c'est la limite. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut sortir de cette limite, parce que sinon...
Bernard, on t'entend plus.
Il y a en ce moment des révolutions qui se passent dans le marché.
Bernard
à Grèbe, un jour ou l'autre, il faudra faire des propositions.
Bernard, on ne t'entend plus. Et je pense qu'il faudrait
passer... Pourquoi la révolution se passe dans le Maghreb?
Bernard, on ne t'entend plus. Bernard,
Il faudrait peut-être passer la parole à Bastien, qui a probablement quelque chose à nous dire. Bastien, est-ce que tu es toujours là?
Bernard, excusez-moi, c'est Bastien qui prend la parole. On vous entend très mal pour ce que je perçois à l'heure actuelle. Je propose qu'on rende la parole à la salle pour voir si la connexion se fait mieux dans le sens salle vers auditeur web pour quelques instants à tout le moins.
Alors, Bastien, on vient de t'entendre. Bien sûr, on aurait beaucoup de choses à dire sur les commentaires de
en fait,
Franck et Bernard. Bernard, oui, mais on ne t'entendait plus à la fin, c'était très très assuré, et je crois que tu nous as donné quand même pas mal ton message, sur lequel tu devançais probablement d'ailleurs un certain nombre de choses qui vont se dire ensuite. Je dirais simplement que par rapport à ce que disait Christian, c'est que justement dans les propositions que tout à l'heure je vais énoncer, il y avait deux types de propositions, la façon de contrer, j'allais dire, la finance prédative et les propositions vraiment constructives qu'il y aura à faire de notre part, donc on y viendra tout à l'heure. Ce que je propose, c'est que Bastien Sibyl nous donne quelques commentaires, et puis ensuite, mais je ferai cela en 5 minutes, je vous donnerai quelques petits commentaires sur les propositions que j'ai trouvées dans le débat public, j'ai pu les trouver dans les programmes affichés pour l'instant, mais vraiment en 5 minutes, parce qu'en fait ce sera mis sur le site, et donc chacun pourra les retrouver tranquillement. Voilà. Donc, je passe la parole à Bastien, s'il la souhaite.
Oui, merci Arnaud. C'est donc Bastien. Écoutez, moi, pour être assez éloigné des questions financières, et notamment dans leur dimension théorique, j'ai pas de message particulier à communiquer pour l'instant. Sinon que de confirmer que dans le secteur des logiciels libres, en particulier, la question du financement et de l'amorçage de la création du code informatique est évidemment tout à fait importante, et qu'elle est d'autant plus compliquée que les banques classiques ne financent pas ou très mal ce type d'innovation technologique, parce que le logiciel n'étant pas protégé par une licence par la suite, elles n'ont pas de capacité à rentrer dans leur investissement si l'entreprise de création venait à échouer, et donc par opposition à du financement d'activités plus classiques ou d'acquisition de biens immobiliers, par exemple, il y a une grande frilosité des banques pour investir dans la création du logiciel libre. Donc il y a là aussi quelque chose de particulier à réfléchir, mais c'est, vous voyez, ce genre de questions qui se posent à moi concrètement dans notre activité quotidienne sont peut-être encore un peu éloignées des questions théoriques liées à la finance internationale que vous avez soulevée jusqu'à maintenant. Donc je m'arrête là et je vous rends la parole.
Bien. Donc, je propose là de prendre 5 minutes pour vous parler un peu de ce que je déduis, de ce que j'ai vu dans les propositions mises dans les programmes politiques pour l'instant en France. Et puis, nous arrêterons 5 minutes, on fera 5 minutes de pause pour reprendre et en venir au cœur de des propositions sur lesquelles nous devons avancer. Voilà. Donc, pour ce qui concerne donc le petit screening que... Oui.
Il faudra, il y a certainement une option pour augmenter le volume du micro.
Tu n'arrives pas à entendre ?
On va faire la pause, si tu veux bien.
Oui, d'accord. Donc, j'ai fait un petit screening de ce qu'on pouvait trouver des propositions faites par les principaux partis, par quelques mouvements, par quelques personnalités au stade actuel aujourd'hui par rapport, donc en les restreignant au domaine de la finance. Alors, première remarque, je n'ai trouvé que des véritables propositions relativement précises de la part de deux mouvements, celui du Front de Gauche, Mélenchon-Payon, et de l'autre côté de Montebourg. Le Parti socialiste, manifestement, on est encore probablement à pas mal de dissensions sur les propositions et reste n'a pas fait de beaucoup de propositions précises. Du côté de la droite, on parle de valeurs, mais on ne va pas plus loin. Alors, que peut-on déduire de ce qu'on retrouve? Alors, un premier point, il y a tout de même une préoccupation de restreindre, c'est pas très original, mais enfin restreindre les activités des marchés financiers, de marché des institutions financières, et en particulier sont tout de même évoqués par un certain nombre. J'inclus bien sûr le manifeste des économistes atterrés, j'allais dire, qui a fait quelques propositions. Premier point, donc, la liberté du mouvement de capitaux pose problème par rapport, puisqu'en fait ça permet de produire une liquidité maximum quand tout va bien, et de favoriser donc la spéculation, ce qui implique aussi donc le cloisonnement des activités des acteurs financiers. Là on retrouve un certain nombre de propositions de plusieurs dans ces domaines-là. Bien sûr, les limitations des activités spéculatives et sont évoquées le problème des paradis fiscaux, ce qui n'est pas un problème simple. Reviennent souvent le problème de la taxation de l'ensemble des transactions financières. Donc Bernard parlait tout à l'heure, donc on revenait sur la taxe Tobin. Bon, il y a deux possibilités, taxer l'ensemble des transactions financières ou bien imposer les banques, établissements financiers à partir de certains éléments d'actifs. Ce qui a été fait déjà par certains, en tout cas aux États-Unis et en Angleterre, mais pas en Europe, à ma connaissance. Par rapport à notre problématique de la société consumériste, on voit apparaître la question de la réglementation du crédit à la consommation, et on voit même M. Attali dans son rapport en parler, ce qui est un peu surprenant, mais comme d'habitude, il en parle de façon tellement générale que ça l'engage peu. Et puis en fait aussi, on voit le Front de Gauche parler du crédit au logement, car là aussi je pense qu'il y a un problème sérieux, s'agirait de pour nos politiques de voir un peu plus en face. Voilà au niveau des activités de marché et de leurs restrictions. Alors revient un second point qui est la réforme profonde de la fiscalité. Alors là je pense que chacun devra lire de près le livre de Piketty qui vient de sortir, qui insiste sur la nécessité de revenir à une politique d'impôt sur revenu qui inclut non seulement les revenus du travail, mais celle du patrimoine. J'en dis pas plus parce que là, beaucoup de propositions sont faites, mais vraiment, ce livre avoir le mérite de mettre dans le débat public, ça en est certain, ce thème. Et là, aucun parti ne peut y échapper, car je pense que c'est une question qui sensibilise l'ensemble de la population. Et là, alors que jusqu'à présent, les partis ne faisaient que faire de vagues promesses dans le programme, mais se gardons bien de préciser pour ne détourner aucun de leurs clients potentiels, et puis une fois qu'arrivés au pouvoir, ils ne font rien, là, il y aura ce thème dans le débat public, donc il faut que nous aussi, et je pense, j'ai eu l'occasion d'en dire un mot à Piketty, je pense qu'on devrait pouvoir dialoguer avec lui, et en même temps peut-être faire jouer son programme informatique, en tout cas il me l'a laissé espérer. Voilà, donc sur ce plan-là, nous y reviendrons sûrement, et puisqu'on aura d'ailleurs au mois de juin une séance en partie sur la fiscalité, avec fiscalité, travail, revenu. Il y a aussi le point de la fiscalité européenne qui commence à venir, non seulement pour avoir un budget permettant de reconversion des industries d'avenir, mais aussi qui parle d'établir une fiscalité pour établir un bouclier par rapport aux critères de différenciation de coûts irréconnables vis-à-vis de certains pays, parlant de juste échange ou moins équitable. Le Parti socialiste, dans l'une de ses dernières, dans ce que Bernard m'a fait passer là sur ou m'a indiqué sur l'abattoir des idées, il semblerait qu'au mois de janvier, il ait abordé cette question. Le troisième point, c'est la question des dettes publiques. Là aussi, un certain nombre, ça figure dans les programmes. De là à dire que y ait beaucoup de propositions qui devraient être, mais elles sont quand même évoquées par certains, autorisées sur l'imitation de rachat des titres publics par la BCE, ce qui permettrait d'arrêter cette spéculation sur les sur un certain nombre de pays. Et sont abordés aussi le problème de la restructuration des dettes et de mutualiser en partie dettes souveraines. Et enfin, la question de réappeler les dettes publiques nationales européennes, le front de gauche l'aborde. C'est un point qui me paraît important et malheureusement pour l'instant il n'y a que lui qui l'aborde. Enfin, sont abordées une nouvelle organisation de l'Europe par un certain nombre aussi, non seulement les économies, les économistes hétérodoxes, mais un certain nombre, y compris même le nouveau centre, l'aborde, la question de l'Europe fédérale à partir de plusieurs cercles et avançant à plusieurs vitesses. Mais là aussi, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur l'Europe, donc je passe à la question de la Banque Centrale Européenne ou d'une véritable autorité de marché. Enfin, le dernier point, je vais très vite, mais je crois que je vous avais dit qu'on essaierait de faire ça en 5 minutes, mais chacun aura l'occasion de pouvoir revenir, je mettrai le papier en ligne. Une nouvelle puissance publique permettant de faire, enfin pour nous, et ce qui permettrait à la source d'arriver à une économie de la contribution. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites et qui recoupent une nouvelle politique publique de crédit, réhabiliter le rôle de la puissance publique pour le développement industriel, une nouvelle politique des revenus, favoriser le développement des PME avec un Small Business Act, comme l'ont fait les Américains, et avoir un pot public d'investissement industriel sous forme de fonds régionaux. Voilà donc en gros ce qui se dit tout de même, ce qui commence à émerger dans le débat public. Là aussi, vous verrez d'un peu plus près, que si vous avez le temps de regarder le petit papier que j'ai fait. Je pense que cela montre tout de même que, en tout cas, dans cette partie de la gauche, certains s'y sont penchés de près et on peut espérer que d'autres approfondiront feront des propositions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors ce que je propose, c'est qu'on s'arrête 5 minutes et qu'on reprenne donc 4h15 à 4h20 pour aller au stade de ce que pourraient être nos propositions. Oui, c'est moi qui retarde. Oui, alors dans 5 minutes, 4h25.